Bloody Milk, un scénario de Claude Lepape et Hubert Charuel. Grand prix du public du meilleur scénario au festival Premier Plan d'Angers en janvier 2016. Lecture par Swann Arlot. Enregistré en public au Théâtre de l'Alliance Française le 13 avril 2016.
C'est la nuit. On entend des respirations animales profondes. Et la sonnerie d'un réveil. Une main l'éteint. Pierre, la trentaine, cheveux ébouriffés, les yeux à peine ouverts, enfile un jean et regarde par la fenêtre. On ne voit rien, dehors tout est sombre. À l'entrée de la pièce, deux énormes vaches laitières, les hanches saillantes, bloquent l'accès au couloir. Pierre se faufile comme si tout était normal. Dans le couloir, une vache tente de se retourner, elle fait tomber un cadre du mur et piétine des bibelots. Dans le salon, Pierre joue des épaules pour se faufiler au milieu d'une dizaine de vaches. L'une d'elles domine le groupe, debout sur le canapé. Pierre arrive à sa cuisine, elle aussi encombrée de bêtes, dont une qui l'empêche d'accéder à la machine à café, il la pousse, agacée. La vache et lui se regardent, pendant que le café coule. La sonnerie du réveil revient, de plus en plus fort, et couvre le bruit de la machine à café. Sonnerie. Le réveil indique 6h45, Pierre l'éteint et s'habille. Il regarde par la fenêtre un très grand parc, un troupeau de 25 vaches meugle contre le portail en fil barbelé. Dans la cuisine, Pierre fait couler son café, ouvre un placard rempli de paquets de BN chocolat, en attrape un et le mange en regardant la météo sur le grand écran plat du salon. Des risques d'orage, mais de belles éclaircies en fin de journée. Pierre zappe sur une chaîne info. En buvant son café, il ouvre le frigo. À l'intérieur, des boîtes Tupperware empilées les unes sur les autres, marquées lundi, mardi midi, mercredi soir, etc. La télé continue. Face à l'inquiétude provoquée par la progression de l'épizootie FHD1, la Cour européenne a imposé l'abattage de tous les troupeaux de bovins en contact avec un animal contaminé. Pierre marque un temps d'arrêt. Un principe de précaution radical mais nécessaire selon le président des autorités sanitaires. Pierre fixe l'écran. Une succession d'images dans la salle de traite, la respiration des bovins, bruit de poulies strident, une porte coulissante qui laisse monter trois vaches en file indienne. Pierre remonte les escaliers de la fosse en béton jusqu'à deux seaux, un jaune et un bleu, remplis de granulés. Deux vieilles boîtes de Benko découpées servent de mesure de ration. Pierre met en route la treilleuse. On se croirait à l'intérieur d'un aspirateur géant ou d'un gros cœur mécanique. Pierre lave les pies, branche les vaches au treilleur. Ses gestes sont précis, rapides mais doux. Il prévient chacun de ses gestes par une caresse sur la patte. Dans le parc des vaches taries, qui sont les vaches placées au repos avant leur vélage, Pierre entre à l'écart du hameau avec deux seaux de brisure de maïs. Il appelle avec une intonation très particulière. On lui répond par des meuglements. Deux, puis trois, puis cinq vaches sortent du bosquet au milieu du parc. Elles courent vers Pierre qui vide la nourriture dans une grande auge. Pierre contemple ces vaches qui mangent. Une d'elles attire son attention. Il la caresse pour qu'elle le laisse la toucher et lui tâte le haut de la queue. Non, arrête tes conneries. Il se recule, se baisse pour regarder ses hanches. Il soupire. Une voiture se gare derrière la sienne, c'est la voiture de sa mère. Plus tard, dans le ciel, des nuages sombres et épais se zèbrent de petits éclairs. Pierre compte les secondes qui séparent l'éclair et le coup de tonnerre. 1, 2, 3. Sa mère. On va se le prendre, hein, ça c'est sûr, faut qu'on rentre. Non, j'ai compté, il parle. Maman, je t'ai pas demandé de venir, donc vas-y si tu veux. Je te préviens que si on meurt, ça sera de ta faute. Coup de tonnerre, la mère s'enfuit. Non, moi je reste pas là, on s'en va. Fais comme tu veux, maman, moi je laisse pas la clôture comme ça. Je te dis qu'on va se le prendre, hein. Il y a ta sœur qui va arriver pour le contrôle, tu vas être en retard. Maman, si t'arrêtais un peu ton cinéma, on aurait déjà fini. La mère s'arrête devant la vache que regardait Pierre. Elle a un problème, la vache, là. Je sais. C'est qui? Hein? Topaze. Elle va véler. Je sais. C'est normal? C'est pas normal. Tu vas la montrer à ta sœur? Il faut que tu la montres à ta sœur. Maman, je croyais qu'il y avait de l'orage, là. Dans la grange, Pierre caresse la tête d'une vache bloquée dans une cage de travail pour être examinée. Derrière la vache, au niveau de son arrière-train, Pascal, la sœur de Pierre, en tenue de vétérinaire, fait une échographie, concentrée sur son écran de contrôle. Pierre demande « Pleine, non ?»« Ouais. » »« Ah, je savais. »« C'est une fille ?»« Non, dis femelle, pas fille. Ça fait bizarre de dire fille. »« Attends, c'est ma troisième meilleure vache. Faut que ce soit une fille. »« Pierre, je peux pas voir encore. »« Bon. » On peut aller voir Topaz, elle est bizarre. Ok, mais vite alors, parce qu'il faut encore que je récupère Alexis. Pascal examine Topaz. Elle a rien de bizarre, elle va véler, c'est tout, tu vas surveiller. Oui, bah, évidemment, je vais surveiller, mais enfin, c'est bizarre, on a 2 mois du terme quand même. Ça arrive, les prématurés, t'en as déjà eu? Bah, dès le début de saison, c'est pas rassurant. T'en as pas eu d'autres ailleurs comme ça? Non, Pierre, c'est juste un hasard. Ouais, bah, j'y crois pas trop. Bon, bah voilà, on y vient. Alors, tu crois à quoi? Oh, tu vas rigoler. Non, je pense pas. Ça peut pas avoir un rapport avec la maladie, là, FHD1. Non, mais tu craques complètement, là, Pierre. Rassure-moi. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi la veto, hein. C'est toi qui as le cerveau. C'est ça. Alors, écoute, le cerveau te dit d'aller te coucher parce que tu manques de discernement. Et c'est quoi, les symptômes? Pierre, c'est pas la vache qui est malade. C'est toi qui es malade de la vache. Dans le chemin qui mène à la maison des parents, Pierre ouvre sa boîte aux lettres qui déborde de pubs en tout genre. Pascal ramasse le petit tas de prospectus qui tombe par terre. Ah, c'est pour des robots de traite. Ouais, bah, tu peux les jeter. Faut savoir évoluer des fois. Le robot, il voit rien. Moi aussi. Pierre et Pascal remontent une rue qui mène vers un pavillon assez neuf. Une camionnette les dépasse et les klaxonne. Les deux se retournent. Pascal demande, c'est quoi ça? La boulangère. Maman veut me caser avec elle, je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais maintenant elle me klaxonne. Torride. Dans la maison des parents, la mère prépare le repas, toujours aussi nerveuse, tandis que le père lit le journal tranquillement assis à table, en face d'Alexis, 6 ans, le fils de Pascal, qui finit de manger des frites. Pierre et Pascal entrent. Pascal, maman, pourquoi tu l'as fait manger? Je t'ai dit que je l'emmenais. Il avait faim, hein, doudou? Vous êtes en retard. Il avait faim ou tu lui as proposé des frites? La mère n'écoute déjà plus sa fille. Elle désigne Pierre qui lit une lettre posée dans son assiette. C'est le classement laitier. Pascal, et alors, faut faire une petite messe? Pascal emmène son fils, lui met son manteau. Elle t'a proposé des frites? Alexis acquiesce. C'est pas grave. Bon, on y va, nous. Bisous. Seul le père fait un petit signe de derrière son journal. Pierre et sa mère sont absorbés par le classement laitier. La mère, alors t'en dis quoi? Bah, rien, ça va. Ça va, ça va. Verdure est tombée à 8000 cellules, ça va pas. Bon, enfin, je reste premier du classement, ça te va pas, ça? Si, mais si elle baisse comme ça, elle va pas baisser. La mère soupire. Elle pose un morceau de pain près de l'assiette de Pierre. C'est Angélique qui l'a amené ce matin. Oui, bah, je m'en doute, oui, puisque c'est la boulangère. Tu sais, elle est un peu triste depuis que son copain est parti, du coup... Non, maman, je t'ai dit non. Non quoi? C'est une fille bien, Angélique. Mais c'est pas la question, laisse-moi. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Le père sort enfin de son journal. Il te dit qu'il veut pas. Mais il est tout seul. Moi, je veux pas qu'il finisse tout seul. Pierre mâche son pain, les yeux dans le vague. La mère reprend la feuille du classement laitier et la contemple heureuse. Quand on pense que tu fais mieux que chez Martineau... Le père, il s'en fout, il a Alzheimer. Et tous ceux qui se foutaient de ta gueule, que t'arriverais à rien tout seul, le vieux Martineau, ça doit le rendre malade. Martineau, il fait pas la différence entre un chien et une pastèque. Qu'est-ce qu'il en a à foutre du classement laitier? Pierre fixe ses parents là. Dans l'air d'attente des vaches, Pierre nettoie le sol avec son tracteur. Un vieux monsieur en bleu de travail usé et lunettes se tient près de la fosse. C'est Raymond. Un peu voûté, très ridé, avec la particularité d'être mono-expressif du visage. Pierre arrête le tracteur. T'as besoin de foin donc, Raymond?
Ouais. Elles arrêtent pas de bouffer en ce moment, puis j'ai Miranda, elle boite. Faudrait que tu regardes si tu peux.
Bien, chef. Je finis ça et puis j'arrive. Raymond reste. Je te rejoins. Raymond ne bouge toujours pas. Bon, ok, on y va. Dans la ferme de Raymond, Raymond tient Miranda, sa vache, au bout d'une corde. On dirait une affiche du salon de l'agriculture. Pierre demande, elle est où ta cage?
Je l'ai vendu à Fabrice il y a longtemps, je dirais que c'était 2002, 2000, 2004. C'était l'hiver, donc peut-être que... Attends, je sais plus... Fabrice... Ouais, bon, ok, c'est pas grave. Vas-y, refais-lui faire un tour, que je la regarde. C'est la nuit, Pierre est devant son ordinateur, Tupperware marqué mardi soir sur les genoux. Il tapote sur un babyphone qui grésille. Il surfe sur des forums type Doctissimo, mais pour paysans. Tous les avatars ont une photo de vache, tracteur ou de veau. Et il tape « symptômes prématurés, fièvre hémorragique dorsale ». Pendant ce temps-là, on entend les messages sur son répondeur. Lundi 2 septembre à 15h12. Salut mon gros, c'est Jean-Denis pour la 12e fois. Bon, tu viens à la chasse? Mercredi 4 septembre à 19h53. Bon, encore moi, on fait un poker ce soir, là, si t'en as marre de taper tes godelles, viens. Vendredi 13 septembre à 10h31. Bonjour, madame Chavange, en fait, c'est Jean-Denis, là, c'était pour savoir si votre fils il est décédé, quoi, savoir quand c'est la cérémonie. Le babyphone s'enclenche, on entend de lourds meuglements. Pierre sort en trombe. Dans la grange, le babyphone émetteur est scotché au mur. Pierre arrive en courant. Deux pattes toutes fines dépassent de l'arrière-train de Topaz. Pierre saisit une velleuse, attache les deux pattes et tire. « Allez, pousse, Topaz. Allez, pousse !» Rien ne vient. « Il faut que tu m'aides, là. » La vache finit par se laisser tomber. Pierre tombe avec. La mise bas ressemble plus à un combat de rue qu'à un accouchement. Le veau finit par sortir et tombe au sol comme une éponge amorphe. Chpok. Pierre regarde le veau, il respire pas. Il le met sur le dos, enfonce deux brins de paille dans ses narines et agite les deux pattes comme des pistons. Allez, allez, respire. Un œil s'ouvre, un petit meuglement aigu sort de la gueule du veau. Pierre, en sueur, lâche tout. Il écarte les pattes arrière du veau et sourit, soulagé. Bienvenue, mademoiselle. Pierre tire le veau vers la mère qui est restée au sol. Il la regarde inquiet. Pierre fait une piqûre à la vache, lui caresse le cou. Mais alors, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Déconne pas. Le réveil sonne, 6h45, la main de Pierre l'éteint. Il ouvre la porte du congélateur, son BN dans la bouche, trie des paquets de colostrum congelés, il prend un paquet marqué +++. Pierre arrive dans la grange avec un seau de plastique, le veau meugle. J'ai compris, 2 secondes. Il fait couler le colostrum décongelé. Le veau met des coups de tête dans le seau. Pierre trempe ses doigts dans le lait avant de les donner à téter. Voilà. Le veau boit le lait en tétant les doigts de Pierre. Bon, ben, on va te déclarer maintenant. Pierre saisit une grosse pince, une boucle d'identification et s'approche du veau qui meugle. Ah ouais, là, tu vas moins faire la maline. Il attrape le veau, met la pince sur son oreille et presse très fort. Clic. Le veau meugle sans s'arrêter. En B, B, Bignou. Le veau lui répond d'un nouveau meuglement. Pierre lui caresse la tête. À côté, Topaz est toujours couché dans le box, faible. Il la regarde inquiet. De retour dans son salon, Pierre ne lâche plus ses forums. Mais non, mais parent fistome, ça ferait pas ça. Il est con, lui. Qu'est-ce qu'il raconte, Proflex 67? Pierre clique un peu partout. Diarrhée fulgurante. Enfin, d'où il voit une diarrhée fulgurante? Pierre soupire, se frotte le visage, puis prend son téléphone. Dans la cour, Pascal sort de sa voiture et claque la portière. 15 messages, hein, mais tu te fous vraiment de ma gueule? Tu crois qu'avec un seul, j'avais pas compris? Pascal marche à grande enjambée vers Pierre qui la regarde arriver comme si c'était Godzilla. Un homme d'une petite quarantaine d'années la suit. C'est Régis, son collègue. Pourquoi t'es venu avec Régis? Pour qu'il voit. Qu'il voit la vache? Non, qu'il te voit toi. Il faut 2 témoins pour l'HP. Pascal prend la température de Topaz avec un thermomètre optique en forme de pistolet. Elle regarde ses yeux. Fièvre de lait? Avec une colibacillaire à la limite? Régis, tu confirmes? Régis, qui sait plus trop où se mettre. Elle a combien? 39,1. Ah bah ouais, ouais, je confirme, fièvre de lait. Pascal, tu veux lui faire passer un IRM quand même ou ça va aller, Pierre? Elle a jamais fait de mammite, sa mère non plus. Ah bah c'est bien ça, c'est scientifique comme raisonnement. Mais et si c'était la fièvre hémorragique? Une fièvre hémorragique, Pierre, il faut qu'il y ait une hémorragie. D'accord? Donc je te prépare une perf de VT cardiol et calcium, et pour la mammite, marbocyl, tolfine et méthio-B12. Ouais, ben ça soignera pas la fièvre hémorragique, tes pauvres perfs. Mais, Pierre, comment l'épidémie serait arrivée jusqu'ici? Il y a 3 cas en Charente. En Charente? Ben je sais pas, moi, avec des vétos de merde qui pensent qu'il y a des mammites. Vétos de merde? Ok, Pierre, je les appelle. Je vais faire tout bien comme il faut le protocole, et après c'est terminé. Quel protocole? T'appelles qui, là ? Pascal s'éloigne, Pierre se retourne vers Régis. Elle appelle qui ?
La DDPP, Direction départementale de la protection des populations.
Et c'est quoi le rapport ?
Ben, c'est eux qu'il faut prévenir si on suspecte un cas de FHD.
Pascal revient. C'est bon, l'expert passe demain matin à 10h. Mais putain, mais si c'est la maladie, ils vont toutes les tuer. Ouais, ouais, dès qu'ils arrivent, ouais, puis après ils brûlent les gens, les villages. S'ils les tuent, je me tire une balle, t'expliqueras ça à maman. Régis, t'es témoin ? Bonne idée, ouais, je ferai des trophées avec ta tête et celle des vaches, puis je les mettrai dans le salon, ça fera joli, je pense. Pascal, moi je lui montre pas ma vache à ton expert. Eh ben, je le ferai moi, hein ? Toi, tu lui raconteras tes délires de Doctissimo ?
Pascal s'installe dans la voiture et klaxonne Régis. Régis, bon, bah, j'y vais.
Pascal jette les perfusions aux pieds de Pierre. M'appelle plus jamais pour tes vaches.
Dans son salon, Pierre est encore sur ses forums, fébrile. C'est la nuit. À travers le babyphone, on entend Topaz qui fait un drôle de bruit, comme une longue plainte. Pierre se précipite dans la grange. Topaz essaie de se relever, mais elle s'est coincée la tête entre les barreaux de son box.
Bah alors, mais t'es conne ou quoi ? Allez, sors-toi de là.
Pierre lutte en tirant sur la tête. La vache finit par se libérer.
Voilà, voilà, c'est mieux. Allez.
Il lui caresse l'encolure. Il sent quelque chose d'étrange. Regarde ses doigts. Ils sont mouillés. Pierre les met sous la lumière de la grange. C'est du sang.
Non.
Il inspecte le dos de la vache. Il suinte du sang comme une éponge. Pierre se décompose. Il se penche sur la buvette de la vache, s'asperge le visage d'eau, puis tremblant, sort son téléphone, appelle Pascal et attend, l'air complètement sonné. Son regard se pose sur la vache, figé. Il coupe brutalement l'appel, puis regarde autour de lui, une fourche plantée dans une botte de paille, un tas de grandes ficelles dans une brouette, des gants en plastique usagés. Il regarde à nouveau sa vache. Dans la cour, Pierre passe devant son bûcher avec des murs de bois de plusieurs mètres. Il voit le merlin éclateur planté dans une souche. Puis regarde la maison de ses parents. Les fenêtres sont allumées. Chez lui, il saisit une boîte de cartouches dans une armoire vitrée, puis attrape un de ses fusils. Il ne peut s'empêcher de regarder autour de lui comme si on pouvait le surprendre. De nouveau dans la grange, Pierre endort Topaz en la piquant à l'épaule. Il déplie une bâche en plastique, soulève la grosse tête de Topaz pour glisser la bâche en dessous. Là, là. C'est bon, ma grande. Ça va. Pierre casse son fusil pour y insérer les cartouches. La vache endormie respire calmement. Pierre rabat la bâche sur sa tête et recule de quelques pas. Prend conscience qu'il est trop loin, se rapproche de la bête. Un silence presque absolu règne. Pierre met la vache en joue. Puis repose son fusil. De retour chez lui, penché sur son ordinateur, en panique, Pierre googlise fabrication, silencieux, fusil 1144. Tombe sur plein de plans compliqués. Il clique sur un lien YouTube marqué « Silencieux, fusil de chasse ». La voix est celle d'un adolescent en pleine mue. «
Alors voilà, donc je vais vous montrer comment fabriquer un silencieux. Donc ça prend un peu de temps, mais vous verrez, c'est marrant. Donc pour ça, il vous faut un canon de pistolet à billes. »
Pierre arrête la vidéo et regarde l'horloge du salon. Dans la cour, les fenêtres du pavillon des parents sont toujours allumées. Pierre bifurque dans le bûcher, prend le merlin éclateur et entre dans la grange. Il s'arrête devant la vache, merlin à la main. Il arme au-dessus de sa tête, mais n'y arrive pas. On entend le souffle de la vache contre le plastique. Pierre lui découvre la tête, la regarde. La vache a un soubresaut, elle se réveille, pris de panique, Pierre lui fracasse le crâne. La vache convulse en lâchant un meuglement étrange. « Pardon, putain, pardon !» Pierre lui fracasse le crâne une deuxième fois, du sang gicle sur lui, frappe une troisième fois. Il est complètement choqué. Le silence est revenu. On entend seulement Pierre qui respire fort et le veau qui s'est réveillé et piétine la paille. Pierre replie la bâche sur la tête de Topaz. Dans le parc, des phares avancent dans la nuit. Le cadavre de la vache se balance au bout de la fourche du tracteur. Au bout du parc, le tracteur s'arrête et laisse la vache tomber au sol. Le godet du tracteur s'enfonce dans la terre. Le tracteur pousse la vache dans le trou. Pierre éteint le moteur, descend du tracteur avec un jerrycan et arrose le trou. En regardant le cadavre, il se rend compte qu'il a oublié quelque chose. Il sort son petit couteau, saisit une oreille. Avec difficulté, il retire les boucles d'identification de Topaz marquées 2304 et les garde avec lui. Il ressort du trou, essoufflé, lance un papier journal enflammé, le cadavre prend feu. Au bord de la tombe, Pierre contemple la crémation, éclairée par les flammes. Noir. Le noir s'estompe, le ciel s'éclaire, Pierre vide un nouveau jerrycan sur le cadavre qui n'a toujours pas fini de brûler. Il regarde le jour qui se lève. Putain. Pierre lance les jerrycans dans le trou, retire sa cotte, son pull, les emballe dans la bâche, jette le tout avec le cadavre calciné. Il remonte dans le tracteur et repousse la terre pour reboucher le trou. Dans la salle de traite, Pierre traite ses vaches, tout blanc, tout sale, détourne une vache vers la grange. Sortie du petit passage de béton, la vache arrive directement dans la cage de travail qui la bloque. Pierre frotte avec un chiffon les boucles de Topaz 2304, gratte une tache de sang séché avec son petit couteau. Pierre retire les boucles de la vache et lui met celle de Topaz. La sort de la cage, la guide vers le box vide. Topaz est remplacée. La mère de Pierre arrive dans son dos. « Qu'est-ce que tu fais ?» Pierre est surpris. « Rien. »« Je venais voir parce que t'es pas venu déjeuner ce matin. » « Ah ouais, pardon. C'est parce que j'ai pris du retard, en fait, c'est pour ça. » « T'as un problème de vache ?»« Non. » « Donc tu viens déjeuner ?»« Non, je dois voir un truc avec Pascal. » « Mais si ça va, pourquoi ta sœur vient ?»« Mais un autre truc, là, qu'est-ce que ça peut te faire ?»« Vous êtes bizarres, tous les deux. »« Toi, t'es bizarre. Il se passe quelque chose. »« Maman, j'ai réfléchi pour Angélique, en fait, je veux bien la voir. »« Ah bah quand même !» « Bon, je vais l'appeler. Ah, ça, c'est super, ça. Bon, et tu viens manger ce soir ?»« Oui. » Dans la cour, Pierre serre la main du responsable de la DDPP, un type entre deux âges, en costume, un peu dégarni. Pascal se tient en retrait, presque amusé. Le responsable. « Alors, y a une évolution sur le bovin ?»« Oui, elle va beaucoup mieux. » Dans la grange, visage circonspect du responsable, « Elle est en parfaite santé, cette vache. » S'adressant à Pascal, « C'est vous qui l'avez examinée ?»« Oui, mais elle était faible, hein, quand même. Là, elle est... » Pascal s'approche de la vache, méfiante. Pierre, « Oui, elle allait pas bien, depuis avant-hier, et puis hier soir, elle s'est mise à aller beaucoup mieux. »« Vous lui avez donné quoi ?» Pascal, « VT cardiole plus calcium. » Docteur Chavange, « Je sais pas si vous avez conscience du travail qu'on a, nous, là-haut. Faut nous appeler uniquement quand il y a un vrai doute. Hein. Là, clairement, il n'y a rien du tout. » Pascal lève la queue de la vache. Celle-ci n'a pas vélé. Elle a compris que c'était pas Topaz, elle vacille. Pierre, c'est ma faute. C'est moi qui ai insisté. Oui, mais vous délirez très bien, la paranoïa des paysans, ok. Mais nous, docteur Chavange, il faut résister. Il faut le tenir. Bon, je vous dis ça, moi je me voyais déjà parti pour un abattage, police, conférence de presse, tout le bordel. Du coup, bon là, c'est quand même plus simple. La voiture du responsable de la DDPP sort de la cour. Pascal se tourne vers Pierre. Elle est où ? De quoi ? Arrête ça, Pierre. Elle est où ? Et puis c'est le sang. Tout le dos, j'avais raison. Montre-la moi. Tu peux pas la voir. Mais t'en as fait quoi ? Je te dis que tu peux plus ! Tu crois que ça me fait marrer ? Je l'ai regardé flamber pendant 5 heures, voilà. Mais t'es fou. T'es fou, Pierre. Elle serait toute morte pour une seule. Mais tu mesures pas bien ce que t'as fait. Je les ai sauvées. Tu te rends compte de ce qu'on risque ? Mais si tu dis rien, quoi ? Tout ira bien. Ta gueule ! Pascal, tu vas pas le dire. C'est toi qui vas le dire. Je te laisse jusqu'à ce soir. Pascal monte dans sa voiture. Pierre reste dans la cour. C'est la nuit. Pierre est attablé avec ses parents, nerveux. C'est la fin du dîner. Sa mère termine un yaourt. À la télé, c'est Rendez-vous en terre inconnue qui passe. Un membre d'une tribu lointaine parle, doublé par une voix en français. La mère. On se demandait, c'était qui l'autre veto dans ta cour ce matin avec Pascal ?
Parce que tu surveillais ?
Non, je surveillais pas, on s'inquiétait. Elle est là tous les jours, ta sœur ?
Mais c'est un stagiaire.
Il avait plein de rides, c'est pas un stagiaire.
Des rides ? Mais t'étais planqué où pour voir ses rides ? C'est un vieux stagiaire, point.
Le téléphone sonne, Pierre regarde avec appréhension sa mère décrocher. Allô ? Ah, c'est toi ? Pierre demande, c'est qui ? La mère, quoi ? Mais comment ça ? Mais si, il est là. Pierre panique, c'est qui ? La mère, mais non, il est pas mort, t'es con toi, je te le passe, c'est Jean-Denis. Dis-lui que je le rappelle. Mais non, parle-lui directement, je le rappelle quand je rentre. Quelle tête de mule ! La mère s'écarte avec le téléphone pour parler à Jean-Denis. Pierre regarde son père qui regarde la télé. Le père se rend compte qu'il est regardé, ils échangent un regard complice. Le père, c'est beau là-bas. À la télé, des plaines sèches à perte de vue. Bah pourquoi t'y vas pas? Hop, petit voyage en Afrique, c'est bien.
Oh, c'est trop loin.
Trop loin de quoi? Dans la maison de Pascal, une image vidéo d'un cinquantenaire barbu qui tient des papiers. Il se filme avec sa webcam pas très bien réglée. Les certifs qu'ils m'ont envoyé, hein, et ça là, c'est mes comptes de la banque, ça fait un mois, j'ai toujours rien eu. Hein. Alors quoi, je me flingue, c'est ça? De toute façon, le but c'est de nous flinguer, nous les petits, attendre qu'on crève. Le son se coupe, l'image se fige, la vidéo attend de charger. Pierre et Pascal sont assis dans le canapé, l'ordinateur de Pierre sur ses genoux. La décoration, moderne et épurée, n'a rien à voir avec celle de la maison de Pierre. Pierre, il marche pas ton wifi? Pascal, c'est bon, je sais déjà tout ça de toute façon, là, mais c'est quoi ces sites-là? Qu'est-ce que tu fous sur charlesmartelrevient.org? Non mais regarde, lui il dit que c'est un complot sioniste de l'Union Européenne contre lui. Pierre reprend l'ordinateur. Elle avait dit qu'elle avait rien. Tu les as appelés pour faire ta maline et puis voilà, maintenant on va me tuer toutes mes vaches. Mais c'est pas moi qui les ai rendus malades. C'est pas moi qui... Il y en a une malade, putain. Même pas, il y en avait une malade. Les autres, on sait pas, ils savent pas comment ça se transmet. Ils veulent buter tout le monde. Tu trouves ça logique, ça? Et tu te rends compte de la merde dans laquelle tu t'es mis, Pierre? C'est la prison, ça. Je rigole pas. J'ai pas le choix. Non, tu l'as pas. Tu dois appeler la DDPP et leur dire. Mais pourquoi tu veux niquer ma vie pour une vache? C'est pas moi qui veux, Pierre, c'est comme ça. Non. T'en auras d'autres. Mais non! T'as vu le Belge, il attend toujours son fric, il a rien. Si je les perds, je suis mort. Je suis sûr qu'il y a un moyen d'attendre que les indemnités, elles... Mais même, c'est pas un tracteur, une vache, putain, ça se remplace pas comme ça. C'est pas toi qui t'en occupe, tu sais pas, c'est nos vaches, c'est mes vaches, hein. Je pourrais pas en avoir d'autres, je pourrais pas, Pascal. Pierre est désespéré. Pascal hésite. Attendons de voir ce qui se passe. Pierre relève la tête. Mais si tu me la refais à l'envers, Pierre, je te balance. D'accord. Je viendrai les contrôler. Toi, tu vas prendre leur température à toutes, tous les jours, tu vas pas les quitter.
Ouais.
Et s'il y en a une autre, il n'y en aura pas d'autre, je te jure. S'il y en a une autre, c'est foutu. T'as compris ça? Pierre et Pascal se regardent. Pierre hoche la tête. C'est le matin dans la salle de traite, un thermomètre est planté dans l'arrière-train d'une vache. Pierre regarde le résultat, nettoie le thermomètre, le met à la vache voisine, court partout. Coup de klaxon, la camionnette d'Angélique. Pierre sort. Dans la cour, Angélique, blonde, ronde, beau sourire, se tient avec une grosse baguette dans les bras devant sa camionnette. Pierre se force à sourire.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Ta mère m'a dit que je devais t'apporter le pain aujourd'hui. Fallait pas?
Si, si, c'est bien, merci.
Et ta maman me disait hier que...
Ouais, alors justement, je voulais te parler de ça, parce que voilà, en fait, c'est beaucoup ma mère qui parle, mais... Enfin, je sais pas trop comment te dire...
Tu veux pas qu'on se voit?
Non, pas du tout, non, c'est rien à voir, c'est juste que... Au niveau du temps, tout ça...
Je peux pas t'aider?
Non, tu peux pas m'aider.
Donc?
Donc, je sais pas, le resto de Jean-Denis, ça te dit?
Ce soir?
Plutôt demain soir.
Ah, super, je suis trop contente. Bon, je te laisse finir ta traite, à demain.
Ok, à demain. Angélique met un croissant dans un petit sachet en papier.
Petit cadeau!
Les 5 vaches taries sont enfermées en bas du parc dans un attrape-vache. Pascal retire ses gants en plastique, son contrôle est terminé. Pierre, au fait, si maman te demande qui était le mec de la DDPP, là, tu dis que c'est un vieux stagiaire. Attends, elle a vu? Non, ça va, j'ai réussi à dévier en acceptant un dîner avec la boulangère pour qu'elle me lâche. Toi, tu fais comment pour qu'elle te laisse tranquille? Oh bah, moi, c'est pas dur, elle s'en fout. Elle s'en fout de quoi? Bah, de moi. Enfin, elle s'en fout pas, mais bon, je suis une fille, donc... Bah, n'importe quoi, attends, on est plus en 1902. Je suis une fille et j'ai pas de ferme. Voilà, mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein, je me retrouve pas à devoir bouffer avec la boulangère. Le téléphone de Pierre sonne. Tiens, maman, ça faisait longtemps. Allô?
T'es où?
Nulle part.
Bah si, t'es où?
Pas loin.
Je suis dans la cour, là, je te vois pas.
Bon, et quoi? Tu veux quoi?
Bah te dire qu'il manque une vache dans le parc.
Putain. Du coup, on est allé vérifier toutes les clôtures du parc, mais on n'a rien trouvé, elles sont impeccables. Et bien sûr, elles sont impeccables, mes clôtures, là, tu me prends pour qui? Il manque pas de vaches, rentre chez toi, maman. Mais t'es où? Pourquoi tu veux pas me dire? Bon, ça va, là, c'est quoi ces questions? Moi, je te demande pas où t'es toutes les 5 minutes.
Mais, je te l'ai dit, je suis dans ta cour.
Pierre raccroche et se retourne vers Pascal. Elle a vu qu'il manquait une vache. Dans la maison des parents, Pierre et Pascal sont assis sur le canapé avec leurs parents, chacun un verre d'apéritif dans les mains. La mère. Alors c'est quoi que vous vouliez nous dire? Vous partez en vacances. En Corse, tous les deux, avec le camping-car, on a tout prévu pour vous, vous partez samedi. Le père attend la réaction de la mère. La nouvelle n'a pas l'air de la réjouir.
C'est ça que vous trafiquiez? Et pourquoi?
Ben, parce que vous le méritez, puis nous, ça nous fait plaisir. Pascal, attends maman, je vais te montrer les photos du camping, tu vas voir, c'est hyper beau. Pascal a tout prévu, elle tend l'ordinateur avec les photos, le père met ses lunettes demi-lune. Aucune réaction. Pierre et Pascal se regardent. Pascal, ça vous plaît pas?
Le père, c'est beau. Mais c'est trop. 5 étoiles, faut pas dépenser vos sous pour nous.
De toute façon, on peut pas partir, c'est la saison des vélages, on va pas vous laisser tout seul.
Mais je me débrouille, là. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas rester accroché ici au cas où j'ai un souci? Regarde, maman, là, regarde, tu vas voir, c'est vraiment super, t'as même pas regardé.
On n'a rien préparé. Samedi, on va pas partir samedi.
Mais maman, vous avez rien à faire. Samedi, ça fait quoi, samedi? Un peu de folie, là. Hein, si tu réfléchis trop, tu feras rien, ça va être super.
Et Alexis? Qui va le garder si on n'est pas là?
Pascal, je peux changer mes horaires, il y a son père, Pierre peut le prendre, c'est pas un problème, ça.
Non, laisse tomber.
Là, elles cherchent tout ce qui pourrait justifier qu'ils partent pas, des fois que ça les fasse crever de quitter leur trou.
Mais non, je suis content, moi.
Ben alors, allez-y, là, tant que vous pouvez, maman. C'est pas en fauteuil roulant que tu pourras y aller?
Ben moi, j'ai pas envie.
Voilà, t'as qu'à y aller avec ton père. Maman, comment tu peux refuser 2 semaines de vacances? Personne refuse de vacances.
Ben si, toi.
Pierre se lève du canapé, énervé. Le père...
Vous croyez qu'on peut faire de la plongée en septembre?
Il se replonge dans les photos.
C'est pénible, hein, je reviens toujours sur la même.
Pascal, attends, je vais te montrer, papa.
La mère.
Et tu vas faire comment pour manger le midi?
Mais putain, mais merde, mais imagine. Imagine, là, il y a Angélique, là, elle vient ici. Tu crois que je veux qu'elle te voie, là, à traîner partout, tout le temps, à faire mes Tupperware? Toi, tu crois que ça fait envie, un mec qui est collé à ses parents à 35 ans?
T'as honte de nous?
J'ai des cheveux blancs, maman. Regarde, j'en ai plein, je suis vieux, j'ai des putains de cheveux blancs et je vis avec mes parents.
Enfin, tu vis pas avec nous, on a fait le pavillon.
Mais le pavillon, merde, mais arrête! J'ai besoin que tu dégages, maman. Casse-toi en Corse, putain, je vais tout seul, sans vous qui venez me faire chier juste 15 jours. 15 jours sans vous, une fois dans ma vie. Les vacances, là, c'est pas que pour vous. Tu comprends vraiment pas ou tu fais exprès?
Les parents et Pascal fixent Pierre, mutique. La mère se lève. On entend un bordel pas possible, des portes qui s'ouvrent, se ferment, des fermetures éclairs. Dans le salon, plus un mot. La mère ressort avec une trousse de toilette dans les mains et s'adresse au père.
Viens, on y va, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est qu'on meure.
Le camping-car disparaît dans la nuit noire. Debout au bord de la route, Pierre et Pascal regardent leurs parents s'éloigner.
Mais ils vont où, là? Putain, je suis vraiment dégueulasse.
Mais non.
Bah t'as entendu comment je leur ai parlé.
Mais fallait le faire, Pierre. Alors du coup, faut qu'on voie pour Alexis, parce qu'il a piscine le mercredi et le vendredi. Et puis il faut que tu me le gardes lundi soir, ok? Bon allez, je te laisse, il est tard. Bisous.
C'est le jour. Dans la salle de traite, les vaches ont l'air paisibles. Alors que Pierre lâche les vaches qui viennent d'être traites, l'une d'elles s'arrête devant lui. Il la gratte sous le cou. Elle étend sa tête comme pourrait le faire un chat.
C'est bon ça, hein?
Pierre sort de sa douche, il regarde les vêtements éparpillés au sol, prend un t-shirt, le renifle, le jette. Il se regarde dans la glace, ses poches sous les yeux, ses rides, ça l'inquiète. Il se coiffe, se regarde, mais se trouve moche, alors il se redécoiffe. Au restaurant, Angélique prend une bouchée de son assiette, sourit. En face, Pierre a déjà fini de manger, il finit un verre de vin, pourtant déjà vide. Cherche quelque chose à faire, ne trouve pas, il croise ses mains sur ses genoux.
Tu manges vite!
Dans le fond du restaurant, au bar, un homme d'une petite 40aine d'années, blazer de cuir, chaîne en or, lui fait de grands sourires. C'est Jean-Denis.
Et sinon, t'aimes quoi comme musique?
Bon, un petit peu tout ce qui passe à la radio.
D'accord. Pierre se gratte un peu le cou.
Tu fais de l'eczéma?
Hein? Non.
Bah si, c'est de l'eczéma. C'est moi qui stresse?
Non, pas du tout. Je suis très à l'aise.
Tu connais les fleurs de Bach?
La musique?
Non. Non, c'est des pchites pour le stress.
Des pchites?
Ouais, tu sais, un spray, quoi. C'est naturel, c'est très efficace.
Non, je te dis que je suis pas stressé.
Pierre remonte nerveusement son col.
T'as une plaque, là?
J'ai pas de plaque. Pierre touche sa joue, regarde ses doigts.
Mais c'est pas grave, hein. Tu sais, moi, je m'en fous du look, tout ça. Ça me dérange pas.
De quoi, le look?
Enfin, je veux dire l'apparence, quoi. Moi, que tu sois paysan, ça me dérange pas. Faut pas que ça te stresse.
Et pourquoi ça te dérangerait?
Non, mais voilà, justement, non, ça me dérange pas.
Pierre la fixe. Angélique, mal à l'aise, replonge dans son assiette. Pierre regarde l'heure sur sa montre.
Du temps a passé, le resto est maintenant vide. Au comptoir, Pierre, au bout du rouleau, boit un verre avec Jean-Denis.
Jean-Denis. Non mais arrête Pierre, déjà t'es sorti, c'est bien.
Bah, je me disais, y a plus tes parents, tu peux venir à la chasse avec nous, ça va te changer les idées.
Non mais c'est pas mes parents qui m'empêchent d'aller à la chasse.
Jean-Denis leur resserre un verre.
Pierre, doucement, je me lève moi.
Oh, depuis quand travailler est un handicap pour se bourrer la gueule?
Pierre sourit.
Voilà, bon, il est toujours valide ton permis de chasse?
Pierre acquiesce.
Dans l'air d'attente des vaches, Pierre remplit le godet du tracteur de maïs broyé. Un homme en blouse grise sort de gros tubes gradués du coffre de son monospace et entre dans la salle de traite. L'homme a la quarantaine, l'air jovial. Il salue Pierre de loin. Pierre change de couleur. Dans la salle de traite, Pierre traite les vaches pendant que le contrôleur en blouse prend des notes sur un gros cahier. Des instruments de mesure sont branchés sur chaque trayon. Le contrôleur. Ça va, Pierre? Vous dites rien?
Oui, ça va.
Pierre regarde le gros carnet du contrôleur laitier. Ils vous ont pas encore mis l'iPad?
Ah, dites donc, elle a sacrément baissé, Topaz, en production.
Ouais, j'ai dû me planter dans les rations.
Ah bah oui, beaucoup planté même.
Le contrôleur regarde son listing. Il en reste combien à traire?
C'est les dernières.
Il en manque une.
Oui, j'ai oublié de vous dire, je l'ai perdue.
Comment ça, perdue?
Perdu. La semaine dernière, je me lève comme tous les matins et j'arrive dans le parc de nuit, puis je me rends compte que la vache a disparu.
Dans le parc? Vous vous moquez de moi?
Non, je vous jure, vous me croyez pas?
Vous, Pierre Chavange, le prince des vaches, vous perdez une de vos vaches et vous êtes pas plus inquiet que ça?
Je suis pas inquiet, je suis triste.
Vous avez jamais perdu de vache? Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas.
Le contrôleur fixe Pierre, sceptique. Je la sors de mon listing, mais faut la déclarer aux flics, hein, vite. Parce que si vous avez un contrôle sanitaire, vous allez avoir des problèmes. Normalement, c'est dans l'autre sens que ça se passe. D'abord les flics.
Et qui c'est qui m'appelle le prince des vaches?
Gendarmerie locale. Un gendarme regarde Pierre d'un air inquisiteur pendant qu'il tape sa déposition à l'ordinateur. Il le fixe tellement qu'il se rend compte qu'il a tapé n'importe quoi et qu'il est obligé d'effacer tout ce qu'il a tapé. Pierre sait pas trop où se mettre, il regarde ailleurs, voit deux autres gendarmes derrière leur bureau qui font rien. Tout le monde le regarde.
C'est quoi le numéro de la vache?
2304.
Et donc, pouf pouf, elle a disparu?
Ouais.
Mais en vrai, ça disparaît pas comme ça une vache. Enfin, ça se voit, je veux dire, ça peut pas passer tranquillement la frontière avec une cagoule, un faux passeport. Vous l'avez cherché?
Oui, on l'a cherché partout.
C'est qui on?
Quoi?
C'est quoi on?
Moi et ma mère.
T'as dit qu'ils étaient en vacances tout à l'heure?
Pardon, ma sœur, je voulais dire ma sœur.
Ah, y a une sœur maintenant. Bon, c'est qui la sœur?
Pascal Chavange.
La Veto? C'est ta sœur?
Oui, pourquoi?
Je l'inscris avec ma sœur Pascal Chavange. Vous avez appelé l'ONF, savoir s'ils a pas vu la vache dans le bois? T'as appelé tes voisins du parc? Parce que bon, sinon, nous on peut pas la déclarer perdue, hein. Dans ce cas, faut la retrouver.
Eh si, on l'a cherché partout, dans le bois, les champs voisins, mais rien.
C'est quand même dingo, hein, toutes ces vaches qui fuguent. Franck, on va aller faire un tour au camp de Gitan, là, parce que déjà qu'il pique les quads, peut-être y a un lien. Il en pense quoi, monsieur Chavange? Tu vois, là, je relis la déposition, là. J'ai un peu l'impression que tu te fous de notre gueule. Elle est où, cette vache, en vrai?
Je l'ai mangée.
Pardon?
Je l'ai fait tuer pour la manger.
Eh ben voilà, on y arrive. Donc la vache, elle est pas dans les bois, elle est en petits morceaux dans ton congèle.
Ouais.
Tu crois que t'es le seul à faire ça? Vous êtes quand même marrants, les paysans, hein. Bon, par contre, ce serait sympa de nous faire profiter un peu, d'accord? Donc, tu vas nous préparer un peu de faux filet, quelques entrecôtes. Tu es sûr qu'elle doit avoir des belles entrecôtes, ta vache, hein, Franck? Franck, il dit, ouais. Voilà, donc 1,5 kg de faux filet, des entrecôtes, puis nous, on ne fait pas chier, ça va comme ça?
Pierre prend la déposition.
Je comprends juste pas comment vous faites pour bouffer vos propres animaux, ça me dépasse. Allez, tiens, signe là.
Hypermarché. Pierre achète des entrecôtes et du faux filet en barquette, premier prix. Il tient son caddie, les mains bien parallèles, déambule dans les différents rayons sans savoir quoi acheter. Pierre est debout devant les rayonnages gâteaux. Il est figé devant les dizaines de paquets de BN aux multiples parfums qui s'étalent face à lui. À la piscine municipale, Pierre est dans le coin d'une pièce carrelée en bleu. Bruit d'eau, écho de voix. Pierre regarde dans le vague. Il est sorti de sa rêverie par Alexis qui l'arrose d'eau. Pierre se force à sourire. Alexis est en slip jaune fluo et lunettes assorties.
« Et on va voir les vaches ?»«
T'as fini ta leçon ?»«
Oui, c'est fini. » »«
Et peut-être que t'as faim un peu aussi ?»«
Ouais, ça creuse la piscine. »
Voilà, ouais, ça creuse.
Pierre et Alexis sont dans la cuisine de Pierre, assis l'un face à l'autre, en combinaison de travail, à manger des BN. Alexis est comme une version miniature de Pierre. Pierre désigne un BN à la framboise. Tu connaissais celui-là?
Ouais. Bon, on va traire les vaches?
On est bien là, non?
Ouais.
Mais on va les traire, hein, t'inquiète pas.
Dans la maison de Pierre le soir, Alexis joue avec une ferme en plastique sur le carrelage. Tout y est, le tracteur, les vaches, les bottes de foin, les clôtures. Les vaches sont toutes parfaitement alignées.
Et non, Alexis, elles sont très très bien rangées, tes godelles.
Alexis lève les yeux vers lui et confirme de la tête.
Oui, il faut bien s'en occuper.
Pascal arrive avec des bières. Pierre désigne les jouets d'Alexis si bien rangés. Pascal,
ouais, ouais, je sais, c'est flippant.
Elle s'affale dans le canapé. Et donc, les flics?
Bah, rien. J'ai dit qu'on avait cherché partout, qu'elle avait disparu. Puis voilà, à la fin, j'ai avoué que je l'ai mangée.
Avoué?
Oui, bah, tu vois bien.
Et c'est qui, on?
Bah, toi et moi.
Mais on n'a jamais fait ça.
Sans déconner.
Bah alors, pourquoi tu m'as mis moi? Bah, j'ai dit maman au début, et puis comme elle est partie, bah, j'ai dit toi.
Bah, merci.
Et s'ils font une enquête?
Une enquête? Pff, non, mais attends, tu verrais les mecs. Ils ont classé le truc, c'est bon, je te dis.
Je suis noté dans une déposition pour une disparition de vache juste après un contrôle sanitaire. Mais personne n'en a rien à foutre, Pascal, de ce truc, là, j'ai dit n'importe quoi. S'il y a un problème, je prendrai tout sur moi. Alors pourquoi tu m'as mis dans ton PV? T'es tout le temps ici. Tout le monde te voit, ça change quoi ce PV? Pascal, on est ensemble dans ce truc ou pas? Si tu veux plus, arrête, hein, viens plus voir mes vaches, lâche-moi, lâche-nous, voilà, je sais pas, t'as jamais rien su de ce qui se tramait chez moi, et puis voilà. Pierre, même si je voulais te lâcher, je pourrais pas, c'est trop tard. Ça a toujours été trop tard. T'étais juste pas obligé d'en rajouter.
Pierre, un peu penaud, boit une gorgée de bière. Il croise le regard d'Alexis qui a arrêté de jouer depuis longtemps.
Dans la forêt, en plein jour, une carte IGN. La main à chevalière de Jean-Denis tape sur plusieurs endroits.
Fabrice, près du Simonin, Pierrot avec moi dans la tranche, ok?
Jean-Denis relève la tête, personne n'a écouté. Tous les mecs en habit de chasse kaki sont plongés dans une grande discussion. Dans la troupe, Thomas, jeune homme frêle âgé d'une vingtaine d'années, et Fabrice, la quarantaine bedonnante et bourrue. Jean-Denis.
Y en a un que ça intéresse, ce que je raconte?
Personne l'écoute, Pierre fume sa clope un peu à l'écart.
Et ils ont dit les vecteurs deviennent victimes, avec le mouton.
Mais n'importe quoi, ils ont dit qu'ils savaient pas. Tu parles, ils savent très bien. C'est la grosse merde, c'est tout, ça se répand, moi je te dis, ça flotte dans l'air. Oh les gars, vous chassez ou vous faites PMU là?
Et faut pas hésiter, hein, faut éliminer, hein. Mieux vaut trop que pas assez, moi je dis.
Bah ouais, mais, hein, t'es pas d'accord Pierre?
D'accord pourquoi?
Bah pour zigouiller tout là, regarde le cours de la viande en Allemagne depuis cette connerie, regarde.
Fabrice tend son téléphone à Thomas et Pierre. Pierre tire sur sa clope.
Je m'en fous des cours de la viande, je fais du lait, moi.
Ben, moi aussi, je fais du lait, mais je peux te montrer les cours du lait, si tu veux, regarde.
Non.
Jean-Denis, bon, on chasse ou quoi, merde, là, on est là pour penser à autre chose.
Le fusil de Pierre, en bandoulière, tape sur son épaule au rythme de sa marche. Pierre enjambe des ronces, s'enfonce de plus en plus dans le bois. Son regard est porté droit devant lui.
Dans l'aire d'attente, Pierre et Pascal sont assis sur les barres métalliques d'une auge, au-dessus des vaches qui mangent.
Pascal, quoi, des vecteurs victimes? Bah ouais, je sais pas, il a dit ça, un mouton vecteur victime. Mais n'importe quoi, il n'y a jamais eu de mouton, ni vecteur, ni victime. Non mais si tu te mets à écouter Fabrice, on n'est pas rendu. Hein. Bon allez, j'y vais moi parce que j'ai une soirée.
Ouais, moi aussi.
Toi? Tu sors?
Non, enfin, je fais un apéro avec JD, Fabrice et Thomas.
Bah, pourquoi tu m'as pas invité?
Bah, t'étais là il y a 2 jours.
Ouais, enfin, c'est pas pareil.
Bah, viens.
Mais non, maintenant, je peux pas annuler.
Ouais, de toute façon, tu loupes rien. Je pense que Fabrice va passer la soirée à me faire l'article de sa ferme et ses applis.
Putain, mais ta vie change, Pierre, c'est dingue. Hein, tu rechasses, t'invites des meufs, tu fais des apéros. T'as jamais été aussi content, en vrai.
Sûrement, ouais.
Non, mais préviens-moi la prochaine fois, hein. Histoire que j'ai pas que l'impression qu'on ait des liens de vache.
Et tu veux qu'on ait des liens de pastis?
Ouais, par exemple.
Bah d'accord.
Dans la salle de traite, Pierre fait les relevés de température avec le thermomètre optique de Pascal. Il caresse ses vaches pendant leur traite. Une goutte de sang tombe sur le sol en béton, entre les pattes d'une vache. Une autre goutte, puis une autre. Pierre relève la tête, des gouttes de sang ruissellent le long des flancs de la vache. Non. Dans la grange, Pierre est pendu à son téléphone. Ouais, Jean-Denis, c'est moi, en fait. C'était pour vous dire qu'on annule l'apéro ce soir, parce que là, j'ai une merde, là.
Hein?
Non, je suis désolé. Non, mais faites demi-tour. Non, vous...
Allô?
Ça raccroche.
Merde!
Bignou, le veau, meugle. Pierre le regarde. Toi, tu commences pas. La vache est tombée sur le béton, coincée dans le couloir, paniquée d'être ainsi bloquée. Elle respire fort, tremble nerveusement des pattes. Pierre descend dans la fosse, monte sur le muret et la pousse. « Relève-toi, allez, s'il te plaît !» Pierre lui botte l'arrière-train. La vache tente de se relever, mais rien à faire, elle est bloquée. Elle reste étendue dans le couloir et se met à meugler. Pierre craque. « Mais tu me fais pas ça, putain! Mais non, mais t'es vraiment trop conne !» Pierre enjambe comme il peut la vache et se met de l'autre côté. « Lève-toi! Lève-toi! Ils arrivent, putain, bouge, quoi! Tu veux crever, là ?» Il essaye de lui bouger la tête. La vache meugle très fort. Les vaches dans l'air d'attente meuglent aussi. Pierre se frotte le visage. Pierre charge son fusil d'une balle, met en joue la vache qui n'arrête pas de meugler, y tire sans hésiter et se retrouve couvert de sang en une seconde. Les vaches qui attendent dehors s'agitent, foncent dans la porte en fer de l'air d'attente, puis le silence. Pierre pose son fusil contre le mur, lui aussi couvert d'éclaboussures sanglantes, il respire fort, au bord du malaise. Klaxon de voiture, dérapage dans la cour, les potes arrivent, Pierre fonce dans la salle du tank. Il est sous le jet d'eau, torse nu, on l'appelle dehors, il met une cotte neuve qui l'asperge aussi d'eau. Dans la cour, Jean-Denis, Fabrice et le jeune Thomas sont là, chacun des bouteilles d'alcool dans les mains. Pierre reste à quelques mètres d'eux, on entend les vaches meugler. Oh la tête que t'as là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mon tuyau qui a pété. Ah, toi t'as lu l'apéro pour un tuyau toi? Bah attends, on va t'aider là, c'est dans la salle de traite.
Non, mais c'est bon, c'est réglé en fait, laisse tomber, c'est bon, on rentre.
Eh, avec un robot, t'es pas emmerdé comme ça, hein, jamais. Bon, les gars, on rentre?
Eh, tu veux pas que j'aille voir? Moi, ça me dérange pas, hein, faudrait pas que ça inonde.
Ça inonde pas, en fait, c'est réglé. On y va?
Eh, mais qu'est-ce que t'as?
T'es, le mec, il a pété un tuyau d'arrosage, on dirait sa mère, elle est morte, hein, c'est pas grave, hein, c'est un tuyau.
Dans le salon, les quatre mangent des pistaches en buvant leur verre. On entend toujours les vaches meugler. Pierre regarde la bouteille de whisky à peine entamée. La soirée est loin d'être finie. Il est tendu.
Sinon, on peut sortir, non?
Où?
Bah, je sais pas. Ailleurs? Loin?
Jean-Denis regarde la déco de Pierre, des assiettes accrochées au mur, vestiges du temps où les parents vivaient encore là.
Eh, mais dis-toi, t'as rien changé depuis que t'es à la maison. Les assiettes là, quand même, quoi, c'est... Hein?
Non. Je vous resserre? Allez, je vous resserre. Tiens, JD, donne-moi ton verre.
Oh, 2 secondes, là! Tu veux nous foutre dehors ou quoi, là? Eh, tu veux pas voir nos gueules, faut le dire, hein?
Et pourquoi elle gueule comme ça, tes godelles?
J'en ai une qui va à Taureau, je l'ai isolée, mais elle fout le bordel. Ah, elle gueule dans le parc? Parce qu'on dirait que c'est en haut.
Bah non, c'est dans le parc. On va mettre de la musique.
Pierre met une chaîne de télé qui diffuse des clips. Il monte le volume pour couvrir le bruit des bêtes. JD lève les bras. Mais c'est la fête! Fabrice sort son téléphone portable.
Eh, c'est pas vrai, arrête avec ça, là, Fabrice, là, t'es pire que mes gamins.
Non, j'ai juste montré l'appli du robot à Pierre, là, vu qu'il veut s'équiper.
Non, je veux pas m'équiper. J'ai lu un prospectus dans la boîte aux lettres, un prospectus.
Pierre entend les vaches meugler et regarde les mecs autour de la table qui semblent pas les entendre.
Je vais aller au bowling.
Au bowling? Le bowling? Pourquoi au bowling?
Bah, pour faire un bowling, t'es con, quoi.
Eh, hey, mais qu'est-ce que t'as?
Je veux aller au bowling.
C'est cher, le bowling.
Ah non, moi, je vais pas au bowling, non.
Et pourquoi tu veux pas aller au putain de bowling, Fabrice, putain? Pourquoi tu fais chier, là?
Jean-Denis se lève d'un coup. On va au bowling! Il embarque le whisky pour la route!
Sur le parking du bowling, Pierre est dans sa voiture, le regard perdu. Il se tape la tête contre le volant deux fois avant de sortir. Pierre traverse l'allée du bowling jusqu'à l'îlot central. Une vraie tête de déterré. La caissière serveuse voit Pierre planté devant le comptoir.
Une seconde.
Pierre acquiesce. Il la regarde travailler. Elle fait 30 choses en même temps. Serre des pintes de bière à la chaîne. Prend des chaussures. Redonne des chaussures. Elle revient près de Pierre.
Désolé.
En fait, je suis en sergente des gens qui doivent être là.
Ah oui, le pingouin géant.
Quoi? Emma fait un signe de tête. Derrière Pierre, effectivement, il y a un pingouin géant en plastique.
Là-bas, piste 11, ils sont cachés par le pingouin. Ils ont réglé pour vous, votre pseudo, c'est Pierre Gosbeau 52, ça vous va?
Non.
On peut changer, vous voulez quoi?
Je sais pas.
Bon, donnez-moi vos chaussures pendant que vous réfléchissez, vous chaussez du combien?
Pourquoi?
Ben, pour vous donner vos chaussures.
Ah oui, pardon. 42.
Emma disparaît et revient avec une paire de chaussures bicolores. Alors, ce pseudo, on met quoi?
Prince des vaches.
Pierre est près de la piste, il fixe le pingouin géant. Jean-Denis lui saute dessus, complètement sous, un cocktail bleu à la main.
Oh, qu'est-ce que tu foutais, là?
Rien, je fumais devant.
Tu veux un Blue Moon? Eh, c'est dégueulasse, mais c'est bleu, c'est Blue Moon, j'en ai bu 4.
Jean-Denis lui montre 4 doigts. Pierre cherche du secours vers Thomas, qui a un mini parasol de cocktail dans chaque narine.
Bon, comment on fait, déjà?
Oula, la dernière fois que t'es venu, on devait remettre nous-mêmes les quilles à la main, non?
Pauvre con.
Bon, tu te mets là, 3 pas. Tu te sers de ton assiette pour compenser le poids de la boule, tu la jettes pas. Tu accompagnes la boule, tout est dans le poignet, ton bras c'est le prolongement de la trajectoire.
Pierre essaie de se concentrer, il s'élance, balance la boule comme une brute, regarde même pas s'il a touché une quille.
Suivant.
Jean-Denis et Thomas se foutent de lui, Fabrice est sur son smartphone. Pierre regarde le trio, puis le tableau des scores où une petite quille animée danse en disant « Gutter ball ». C'est un cauchemar.
Jean-Denis sort d'un strike, tout fier. Pierre regarde l'écran des scores, il est dernier.
Bon, une dernière, puis j'y vais.
Ben non, après on va boire un coup chez moi.
Non, pas là.
Pierre expédie la boule le plus vite possible. Bon, fin de partie, j'y vais.
Et pourquoi tu le fais exprès, là? Il t'en reste une en plus.
Faites-la, les gars.
Attends, tu nous as fait chier avec ton bowling, là, et maintenant tu veux te barrer? C'est pour toi qu'on est là.
Je suis dernier, je suis crevé.
Eh ben, bois un coup, ça ira mieux.
Non, ça ira pas mieux.
Bon, c'est quoi le problème, là? C'est quoi, là? Tu crois qu'on voit pas?
Quoi? Tu vois quoi?
Tu dis qu'on doit pas venir chez toi, après tu veux venir ici, t'arrives en vrac, tu veux te barrer, tu m'engueules, tu te crois où?
Je veux rentrer, là.
Ben vas-y, casse-toi, vas-y, retourne dans ton trou, là, avec tes putains de godelles, si elles te manquent.
Il se tourne le dos, Pierre quitte le bowling vexé, il court presque jusqu'à sa voiture. Il monte dans sa voiture, met le contact, ça frappe à son carreau, Pierre sursaute, c'est Fabrice. Pierre soupire, il ouvre.
Quoi?
Tu peux me ramener, s'il te plaît?
Ils peuvent pas te ramener, les autres?
Ouais, ils ont pas l'air pressés de partir. Pierre conduit la voiture, les yeux grands ouverts. Fabrice est concentré sur son smartphone. Pierre jette vite fait des petits coups d'œil à l'écran.
T'es encore sur ton truc, là?
Ah ouais, j'ai tous les chiffres, là.
Attends, je vois pas la route. Super pratique, je vois à quelle heure elles vont se faire traire, le nombre des litres, tout, combien exactement elles ont bouffé, quoi, je sais tout.
Ouais, tu sais tout, mais tu les vois plus, quoi. T'as plus de vaches, t'as des applis.
Bah tu sais quoi? Moi aussi je croyais, mais c'est pas vrai. Maintenant elles viennent me voir. Comme je les fais plus chier avec la traite, elles m'aiment bien.
Elles t'aiment plus maintenant?
Pierre regarde plus du tout la route.
Bah ouais, quoi?
J'ai dit quoi?
Elles t'aiment plus alors que tu t'en occupes pas.
Regarde la route, non?
Pierre continue de regarder Fabrice, longtemps. Fabrice regarde Pierre qu'il regarde, presque menaçant.
Regarde la route!
Quoi, t'as peur? Fabrice regarde la route en s'accrochant à la poignée, au-dessus de sa portière, pas rassuré du tout.
Putain de merde!
Pierre reprend sa position normale.
Ça va, c'était pour rigoler.
Ouais, bah, c'est pas drôle, on pourrait crever. Dans la ferme de Fabrice, Pierre passe doucement devant un gros camion à bestiaux et s'arrête devant une maison rattachée à la ferme. Fabrice descend de la voiture.
Merci.
Pierre est déjà reparti. Dans sa cour, Pierre sort de la voiture, branché sur du 220 volts. On entend encore quelques meuglements des vaches dans l'air d'attente. Pierre regarde ses pieds. Merde ! À ses pieds, les chaussures de bowling. Pierre, sur son tracteur, tire une corde. Le cadavre désarticulé de la vache glisse hors de la salle de traite. Près de la fosse à fumier, Pierre enlève la corde autour du cou de la vache. Ses mains sont tachées de boue et de bouse. Il remonte sur le tracteur et pousse la vache dans la fosse à fumier. La vache glisse sous le flot de purin, comme une carcasse de voiture qui s'enfonce dans la vase. De retour dans la salle de traite, Pierre traite les dernières vaches. Il arrose le mur avec son tuyau d'arrosage, le sang dégouline le long du mur pour aller dans les égouts. Il frotte avec une brosse les dernières taches, nettoie au désinfectant les boucles de la vache morte. Dans son salon, Pierre pose les boucles de la vache morte sur le radiateur à côté des chaussures de bowling et constate qu'il a des taches rouges sur les bras. Il les frotte comme si elles pouvaient partir. C'est le jour. Dans la grange, Pierre apporte le seau de lait à Bignou qui n'arrête pas de meugler. Il lui donne le seau. Le veau a fait des progrès. Il engloutit les 2 litres en remuant la queue. Pierre lui touche le haut de la tête, puis s'approche des flancs et les parcours de la main, attentif. Rien. Soulagé, il caresse la tête de Bignou et se gratte le haut du dos. On va s'en sortir ? Le veau meugle. Pierre entre dans sa maison avec le veau dans les bras et le dépose sur son vieux fauteuil. Tu seras mieux là. Il s'allonge tout habillé sur son canapé. Dans l'air d'attente, les vaches ne veulent plus monter dans la salle de traite. Elles se souviennent du coup de feu, elles ont peur. Allez là, il va rien se passer là. Pierre est obligé de leur taper dessus avec un bâton pour qu'elles obéissent. Dans sa cuisine, Pierre fait cuire un steak, son téléphone sonne, l'écran indique « Maman ». Pierre laisse sonner. Il triture son steak, le téléphone fixe sonne. Pierre laisse le répondeur s'enclencher. « Bonjour mon fils, c'était tes vieux parents. Bon, tu réponds jamais au téléphone. Oui, on appelait pour te dire que nous, on est rudement bien en Corse, alors que peut-être on va y rester. Oui, non, avant on s'est arrêté en Camargue. Oh là là là, tu verrais comme c'est beau. Il faut que tu y ailles. On a vu les flamants roses qui s'envolent. Tu savais que c'est parce qu'ils mangent des crevettes qui sont comme ça ? Allô ? Ah oui, non, c'est le répondeur. Oui, aussi, je voulais te dire qu'on sait que la ferme, c'est la tienne. On sait très bien que tu t'en occupes très bien. Moi, je me souviens pas avoir eu d'aussi bonnes notes à notre époque. Pierre a un petit sourire qui devient triste. Oui, enfin, c'est sûr, c'était une autre époque. Enfin, voilà, je te laisse parce qu'il y a ton père qui m'attend. Oui, bon, bah ça va, là, pas la peine de hurler. Pierre retourne à son steak, complètement carbonisé, le pique avec sa grande fourchette, furieux. Il attrape la poêle et la tape plusieurs fois avant de la balancer derrière lui, fracas de porcelaine. 3 assiettes sont éclatées par terre, un bout de porcelaine pendouille encore au mur. Bignou meugle de peur. Pierre le regarde, puis voit les chaussures de bowling posées sur le radiateur. Pierre traverse l'allée centrale du bowling jusqu'à l'îlot, honteux. Emma l'aperçoit. « Ah, prince des vaches !»« Pardon, je suis vraiment désolé. »« Soyez pas désolé, c'est pas grave. »« Vous voulez que je rembourse un truc ?»« Non, non, c'est bon. »« Vous les avez nettoyés ?»« Bah oui, quand même, ouais. »« Vous êtes pas fait engueuler par votre patron ?»« Parce que, enfin, je peux lui parler, si vous voulez. »« Non, c'est gentil, mais ça va. »« Vous êtes trop gentil, vous finirez mal. » »« Bah, si c'est trop gentil, je peux lui péter la gueule. »« C'est moi la patronne. » « Ah, tu veux que je te pète la gueule ?»« Pardon, désolé, je suis fatigué. »« Tu l'as fait exprès ?»« Hein, exprès quoi ?»« Les chaussures. T'as fait exprès de partir avec ?»« Non, pourquoi ?»« Pour rien. » Pierre récupère ses chaussures sur le comptoir. « Bonne journée alors. »« Ok, bonne journée. » Il remonte l'allée, puis fait demi-tour. Je vais prendre un café, en fait. Dans le cabinet de vétérinaire de Pascal, un fond d'écran d'ordinateur, un dossier qui s'ouvre, didacticiel kit épidémie 0789. La vidéo institutionnelle est aussi cheap qu'un lip-dub de parti politique. Apparaît un homme en blouse blanche, souriant, qui désigne une petite mallette anthracite. « Bonjour, vous avez devant vous les kits épidémie avec les tests sérologiques. » Régis et Pascal, sandwich à la main, font face à la vidéo. Régis, on est bien encadré, hein, ça fait plaisir.
Pascal, chut. Sous les sandwichs, les mêmes mallettes qu'à l'écran.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces tests, extrêmement fiables, sont aussi très coûteux. Ne testez pas à l'aveuglette, ne testez pas les troupeaux entiers, seulement le bovin suspect. Les échantillons sanguins doivent être envoyés au laboratoire régional indiqué. Le résultat sera connu dans les heures suivantes.
Pascal scotche le type très concentré. Elle demande à Régis, ils sont fiables à combien de pourcents les tests ?
Bah, 99,9, je pense. Oh merde, j'ai mis des miettes partout.
Mais fais gaffe là, ils viennent de dire que c'est super cher et toi tu fous ton crudité partout.
Ouais bah ça va, de toute façon on s'en servira pas de cette mallette.
Mais qu'est-ce t'en sais ?
Il se passe jamais rien ici.
T'as eu un seul signalement toi ?
À part ton frère ?
Non, bah non.
Non, je t'aurais dit.
Bah alors pourquoi tu m'engueules ?
Non, pour rien, juste on sait jamais.
La vidéo... En cas de positivité du test, vous serez joint par les autorités sanitaires locales afin de poursuivre ensemble le protocole administratif et sanitaire.
Pascal ferme sa mallette et la pose sur une étagère.
T'as raison.
Il se passe jamais rien ici, on risque rien. Allez, au placard. C'est la nuit. Pierre regarde la télé, ou plutôt il fixe l'écran allumé, visiblement ailleurs. On entend quelqu'un frapper, puis entrer. C'est Pascal qui arrive dans le salon. Elle regarde le veau qui squatte le fauteuil près de Pierre.
Pierre, il va bien, tu peux regarder.
Pascal caresse la tête du veau. Pierre ne quitte pas sa télé des yeux.
Pascal, ça va ?
Ben ouais.
Et toi ?
Pascal voit le mur avec les assiettes explosées.
Je nettoie rien.
Quoi ? La paille ou la vaisselle ?
Les deux.
Pascal, on a des tests ? Pierre lâche la télé, il se gratte le bras. On peut savoir si on s'est planté. On peut savoir si elles sont malades ou pas.
Pierre ne quitte plus Pascal des yeux.
On peut savoir, hein, juste nous ou tout le bordel?
Non, il y aura pas juste nous deux, mais on sera sûr.
Aucun des deux n'ose dire quoi que ce soit. Aucun des deux n'a l'air prêt à prendre ce risque. Pierre détourne la tête vers la télé et croise ses bras comme si cette conversation n'avait jamais existé. Pascal s'enfonce dans le canapé, entre Pierre et le veau. Ils regardent la télé tous les trois. C'est la nuit. Pierre se promène dans la ferme de Fabrice, avec une corde à la main. Il regarde de loin le robot de traite, cette tache de lumière au bout du hangar sombre. Il s'en approche presque apeuré. Le robot est un gros caisson dans lequel entre une vache. Tout ce que fait Pierre est ici exécuté par des machines, avec des lasers rouges qui visent les mamelles, des bras mécaniques qui nourrissent la vache, nettoient les pies, branche les trayons. Pierre a l'air triste. Les bras se rangent, la traite est finie. La vache sort du caisson et se retrouve nez à nez avec Pierre et sa corde. Elle n'a pas l'air de comprendre ce qu'il fout là. Pierre s'approche d'elle, lui caresse le haut de la tête pour la mettre en confiance. Elle ne bouge pas et se laisse attacher. Pierre marche dans la nuit, la vache de Fabrice au bout de sa corde. Dans la cour, Pierre a rassemblé toutes ses fringues sales dans un gros fût. Jeans, cotte, sweat. Il arrose le tout d'essence et y met le feu. Il regarde le brasier et se gratte les avant-bras tout rouges, retire son t-shirt et le jette dans le fût. Un bidon de Crésil marqué désinfectant, fongicide, bactéricide conforme normes européennes se déverse sur le tas de fumier. Un énorme tas de mouches est posé sur une masse informe qui perce la ligne de flottaison du purin. C'est là qu'est caché le cadavre de la deuxième vache. Pierre retient sa respiration au maximum, il est tout rouge. Il ne voit pas Raymond arriver dans son dos.
« Ça pue là-dedans ? T'as foutu quoi ?»
Pierre se retourne, surpris. Il le tire loin de la fosse. « T'as besoin de quoi, Raymond ? T'as plus de foin, là, déjà ?
Tu peux venir voir mes vaches ? Elles vont pas bien. »«
Comment ça, pas bien ? » ?»«
Je sais pas. Miranda, elle fait un truc bizarre. Elle est couchée et elle...
Pierre court vers la ferme de Raymond.
« Bah, attends !»
Raymond suit Pierre en marchant au pas. Dans la ferme de Raymond, Pierre est penché au-dessus de la buvette des vaches. Il serre et desserre le robinet. La vache s'approche de la buvette. Raymond arrive enfin dans la grange. Pierre caresse le cou de la vache et regarde Raymond. « Ah, c'est sûr que si tu leur donnes pas à boire, elles vont crever. Hein. » Raymond est tout bête. « Elles vont bien, fallait juste ouvrir le robinet. Toi, tu m'as foutu les jetons avec tes conneries. »«
Ah, bah oui. » Oui, pardon.
Bah, je ferai attention. Merci. C'est pas grave. Allez, à plus. C'est celle qui était dans la salle de traite l'autre soir, là, dans la fosse? Pierre s'arrête net. L'autre soir? Elle gueulait fort, tes godelles, puis t'étais pas là. T'as été fouiné? Pierre attrape une pelle à grains et se rapproche de Raymond. J'ai pas fouiné. Y a rien dans la fosse, Raymond. Si? Non? Y a un truc qui pue, mais on sait pas ce que c'est. Raymond voit la pelle et observe le regard de Pierre. Il l'a jamais vu comme ça. Il prend peur. Y a une godelle dans la fosse, Raymond?
Je sais pas.
Non. Y a une godelle dans la fosse?
Bah non.
Y a quoi?
Bah on sait pas.
Voilà. Tu m'appelles quand t'as besoin de foin? Pierre sort de la grange. Raymond reste les bras ballants. Dans l'air d'attente, Pierre vise les vaches avec son pistolet. Il reprend la température plusieurs fois. Pascal examine les vaches. Pascal, c'est ignoble cette odeur-là. Faut pas que tu vides ta poche à purin ou je sais pas quoi.
Si, si, ouais, c'est parce qu'il fait chaud.
Pierre la voit s'approcher de la vache de Fabrice. Il la fixe. Pascal le remarque.
Ça va pas?
Si.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a?
Rien. Il y en a une qui a de la fièvre? Pascal arrache le thermomètre et vise la vache. Elle regarde le résultat, rien à signaler. Bon, maintenant, Pierre, tu vas me dire ce que t'as, parce que là, j'aime pas du tout. Pierre la regarde vraiment bizarrement.
Quoi?
Pascal se met à compter les vaches une à une. Elles sont toutes là. Elle se tourne vers Pierre, perdue. Pierre enlève son t-shirt pour montrer son dos à sa sœur. Des plaques rouges dessinent de grandes taches sur sa peau. Il a gratté à certains endroits jusqu'au sang, son dos est piqueté de croûte. Pascal se décompose.
Mais t'as fait quoi?
Touche pas, hein.
Faut aller voir un médecin, pourquoi t'as gratté comme ça?
Pierre reste dos à Pascal.
C'est foutu. Foutu de quoi?
Je vais leur filer, c'est moi le vecteur, je suis malade. Elles vont mourir. Pierre s'écarte de Pascal comme s'il était contagieux. Pascal prend le thermomètre optique et vise Pierre qui reste immobile. « T'as pas de fièvre ?»«
Tu peux me faire le test ?»«
Le test ?»«
Le test FHD1 ?»« Mais tu peux pas avoir cette maladie, tu peux pas !»«
Tu peux ou tu peux pas ?»«
Qu'est-ce que tu t'es mis dans la tête encore, Pierre ?»«
C'est de ma faute, Pascal. »«
Donne-moi ton poignet. »
Pierre résiste.
« Donne, je te dis. C'est pas possible que t'attrapes la maladie et moi non plus. »«
Mets ton gant. »«
Je prends juste ton pouls. » Ça doit être un zona que t'as massacré, tu prends une douche et on va chez le médecin.
Donc je suis malade alors.
Chut. J'essaie de compter.
Laboratoire d'analyse. Pierre regarde les petites fioles de sa prise de sang se remplir, puis l'infirmier qui colle des petites étiquettes sur les tubes. L'infirmier fixe le point de Pierre toujours serré.
C'est bon, monsieur, c'est fini.
Pierre le fixe, il desserre pas le point. Dans la maison de Pascal, la nuit, Pascal étale de la pommade sur le dos de son frère.
C'est bon.
Merci. Pierre rabat son t-shirt et étale de la crème sur ses avant-bras. Ça sert à rien ce truc.
Attends un peu. Il faut que tu te calmes, sinon tu vas en avoir jusque sous les yeux.
Pierre est sur le point de craquer.
Je suis con. Mais non, t'es pas con, au contraire même. Mais il faut que tu me parles, hein, sinon je sers à quoi?
Je suis con, je croyais que je pourrais, mais non. En fait, j'ai raté.
T'as raté quoi? Rien, y a pas d'autres vaches malades, personne ne sait, c'est toi qui avais raison.
Pierre finit par acquiescer avec insistance comme pour se donner du courage. Il fait teinter sa bière contre celle de Pascal.
Santé, du coup?
Voilà, santé. Si tu te mets encore une fois dans cet état, je te pète les dents.
M'as foutu les boules, toi.
Les vaches en plastique d'Alexis sont posées sur la table basse. Pierre en réajuste une pour qu'elles soient toutes bien alignées. Dans son salon, Pierre est affalé sur son fauteuil. Le veau est sur le vieux canapé. Pierre tombe sur un clip hip-hop bling-bling avec des filles très dénudées. L'assiette sale de Pierre et un paquet de BN éventrés sont posés à côté de lui. À côté de l'assiette, la carte de visite du bowling, avec une quille et le palmier néon. Pierre la prend, la regarde, la repose. Les filles de la télé font une chorégraphie plus que suggestive. Pierre bouge la tête au rythme de la musique. Il commence à tapoter ses doigts sur son sexe et finit par déboutonner son jean et y glisser sa main. Pierre se caresse doucement jusqu'à ce qu'il se rappelle la présence du veau juste à côté de lui qu'il regarde. Pierre gêné arrête, il regarde le veau, reboutonne son jean, met son bras derrière sa tête, jette un coup d'œil au veau. Le tracteur de Pierre embarque une énorme quantité de chaux, puis se dirige vers une grande plaque de métal, à côté une cabine avec un type en côte. « Salut Pierrot !»«
Salut. »«
Ouah, mais qu'est-ce que tu vas faire avec une tonne de chaux ?»«
Bah, méchant. »«
T'en as pris beaucoup ?»« Et qu'est-ce que ça peut te foutre, là, t'es pas ma mère ?»«
Non, mais je dis pas ça pour te faire chier. »«
Bah, c'est raté, parce qu'en fait, là, tu me fais chier. Allez, bisous. » Près de la fosse à Purin, il fait très beau. Des milliers d'asticots grouillent sur le fumier. Pierre tapisse son tas de fumier de chaux. Un énorme tracteur passe devant Pierre. Il klaxonne. Pierre relève la tête, c'est Fabrice. Pierre regarde l'épandeur à fumier tiré par le tracteur. Il court vers Fabrice.
Comment c'est que c'est, Fabrice ?
Ah, ça va, mais je suis emmerdé. Il manque une vache.
Comment ça ?
Bah, elle est plus là, je sais pas, elle a disparu.
Ah, elle t'a pas envoyé de texto ?
Non, pardon. Pardon Fabrice, ça doit être chiant, pardon. C'est peut-être les gitans. Et t'as fini avec ton épandeur, je pourrais te l'emprunter pas longtemps.
Tu me le ramèneras ?
Bah ouais, je vais pas te piquer un épandeur.
La fourche soulève une grosse quantité d'un mélange de fumier et de restes de vache. On reconnaît très bien un morceau de pâte qui pendouille au bout de la fourche. Dans la fosse, il ne reste plus que du purin très liquide, dans lequel on discerne des lambeaux de viande. Pierre les ramasse avec sa pelle, le regard vide. Beau tableau.
Dans son champ, Pierre est sur le tracteur avec l'épandeur à fumier de Fabrice. Il enclenche un gros levier. Le fumier et la vache sont déchiquetés et pulvérisés dans le champ. Dans la cour de Fabrice, Pierre descend de son tracteur garé. Fabrice est déjà en train de détacher son épandeur. Derrière eux, l'énorme camion à bestiaux de Fabrice.
Là, je vais te montrer le robot, tu vas voir à quoi ça ressemble pour de vrai comme ça. Ça te décidera peut-être.
Non, je suis désolé Fab, j'ai vraiment pas le temps, puis ça va, j'en ai déjà vu un.
Ouais, mais le mien, il est mieux, à mon avis.
Pierre sourit à Fabrice et remonte dans son tracteur. Pierre est dans sa douche, torse nu. Il shampouine le veau qui n'apprécie pas et le fait savoir en meuglant. Bignou, tout propre, attend sur le carrelage de la salle de bain. Pierre est dans sa douche. Il ouvre le bidon de Crésil. Il hésite, mais finit par déverser le contenu de la bouteille sur son dos. Sa mousse, l'eau ruisselle sur les plaies qui se dessinent en bas-relief. Dans la ferme de Fabrice, Pascal fait passer une échographie à une vache coincée dans la cage de travail. Elle a un gros cahier marqué « carnet de fertilisation » et coche une case à côté du nom et du numéro de la vache. Impeccable, elle est pleine. Tu m'amènes la 4506, on l'a pas vue encore.
Ah bah, tu risques pas de la voir, elle a disparu.
Comment ça, elle a disparu ?
Tu me le dis que maintenant, Fabrice ? Avec la FDH1, là, tu sais très bien que je dois le signaler tout de suite, un truc pareil.
Bah, je sais, mais... C'est bon, j'ai déclaré aux flics, apparemment c'est les gitans qui piquent des quads et des vaches.
T'as pas fait une connerie, Fabrice ?
Mais non, quelle connerie j'aurais fait ? Le regard glaçant de Pascal met Fabrice mal à l'aise.
Les vaches, elles s'habituent pas toutes aux robots, alors peut-être elle a eu peur, elle s'est barrée, je sais pas.
Tu l'as vue quand, cette vache, pour la dernière fois ?
Sur l'ordi, ça dit qu'elle a été traite le 23 à 22h25. Il y a plus de traces après.
Le 23. Et après, rien. Fabrice confirme. Pascal le fixe, mais maintenant, c'est elle qui a peur. Dans l'air d'attente, Pascal arrive avec son appareil à échographie. Pierre la regarde marcher jusqu'à lui, coincé au milieu de ses vaches.
Pascal, je veux un contrôle fécondité.
Pourquoi ?
J'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça, je veux voir.
Mais tu veux voir quoi, putain ?
Y a que comme ça que je peux voir quelle vache t'a piqué chez Fabrice.
Mais j'ai rien piqué chez Fabrice.
Ok, j'appelle la DDPP.
Dans la grange, nouvelle échographie.
Alors pleine, ok. 3-4 mois. Ok, suivante.
Une autre vache entre, Pascal la regarde attentivement et prend sa sonde.
Elle est pas pleine. Elle a pas le bon cycle du tout, c'est bizarre, hein.
Pierre. T'as trouvé la vache ? Ça y est ? T'es contente là ? C'est bon ?
Je suis contente. Y en a combien ?
Et les autres vont très bien, je te montre le carnet de température de ce matin, elles sont toutes en pleine forme. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre des températures que tu prends toi ?
Pascal se précipite hors de la grange et revient avec un kit épidémie, elle déballe une seringue. C'est quoi là ? Tu fais quoi ?
Je t'évite la tôle, Pierre. Je t'évite de payer tes amendes avec ta ferme. Je vais faire mes petits prélèvements et on va faire tous les deux comme s'il n'y avait jamais eu deux autres.
Tu vas piquer qui ?
Toutes ! Si tu les piques toutes et que c'est tout négatif, tu vas passer pour une conne. Déjà le mec de la DDPP, il t'a dit « Je m'en fous de passer pour une conne, on n'en est plus là !» Et même s'il y en a une, c'est rien, une, elles vont toutes... Mais il n'y en a pas qu'une, il y en a déjà deux !
Pascal,
c'est foutu, tu peux prendre toutes tes petites températures, tu peux les regarder tous les jours pendant des heures, c'est foutu !
Mais j'ai rien.
Pascal, tu l'as dit toi-même, j'ai rien. Mais elles, elles sont malades, elles !
Pierre semble enfin prendre conscience de son impuissance.
Tu vas les regarder clamser les unes après les autres, tu vas les tuer les 30, une par une. Écoute-moi pour une fois.
Pascal pique la vache. Pierre regarde le sang se remplir dans la fiole. Arrête, s'il te plaît. Puis tape violemment sur le bras de sa sœur, la fiole tombe dans la bouse. Pascal essaie de la récupérer, Pierre lui attrape le bras et la pousse par terre. Pascal s'étale dans la merde de vache, elle pleure un peu. Tu m'as mis en retard, arrête de chouiner, je te connais.
Pierre referme le portail derrière la dernière vache, il regarde ses bêtes descendre vers le fond du parc, calme, tranquille. Un bruit de klaxon le fait sursauter, c'est Angélique dans sa camionnette, elle lui fait un coucou. Pierre ramasse un caillou par terre et le jette violemment sur la camionnette qui s'éloigne. Mais barre-toi, bordel !
Dans l'aire d'attente, Pascal se cache à chaque fois que Pierre sort de la salle de traite. Elle fait un prélèvement sur une vache, bruit de poulie, Pierre sort pour monter trois vaches. Pascal s'accroupit, elle manque de se faire écraser par une vache. Nouveau bruit de poulie, Pierre est rentré dans la salle de traite. Pascal recommence son petit manège, elle pique une autre vache, prend un échantillon et recommence en surveillant constamment la porte. Les vaches s'agitent. Pierre sort de la salle de traite.
Ça y est, tu pleures plus là ?
Pierre fait monter une dernière vache et la suit. Pascal reste toute seule sous la pluie. Dans la maison de Pascal, une porte de frigo s'ouvre. Elle y dépose les échantillons de sang entre les tranches de jambon et les yaourts. Elle les regarde longuement, puis sort un paquet de gnocchi.
On va manger vite fait, mon chéri, maman a encore du boulot.
Chez lui, Pierre tape frénétiquement sur son ordinateur. Ça frappe à la porte. Il se lève, ouvre la porte, c'est Raymond. Il lui claque la porte au nez.
Tu veux pas venir voir mes vaches ? Elles vont pas bien, là, je crois.
Pierre se rassoit devant son ordinateur et recommence ses recherches. On frappe au carreau, le visage de Raymond se colle à la vitre.
Et là, elles ont de l'eau.
Pierre.
Elles vont toujours bien, tes vaches, à toi, alors dégage, dégage.
Raymond s'éloigne de ses petits pas. Pascal arrive dans son cabinet de vétérinaire. Régis fronce les sourcils.
C'est moi qui suis de garde.
Pascal pose la glacière sur la table et sort une vingtaine de fioles.
Non, non, mais ça vient d'où ?
Mon frère.
Hein ?
Mais t'as fait n'importe quoi, là, dans la vidéo, le mec, il a dit une fiole par vache.
Je les ai toutes piquées.
Régis la fixe. Pierre traverse l'allée centrale du bowling. À la lumière, on voit les grosses traces de boue et de bouse sur ses vêtements. Son allure pitoyable attire les regards des clients. Emma le scrute.
Ça va ?
Non.
T'as eu un accident ?
Non, enfin pas exactement, mais c'est pas grave. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Voilà. Je sais, tu m'as dit faut pas être désolé. Ben tant pis.
Attends, je comprends rien là. Tu veux pas qu'on en parle plus tard, s'il te plaît ?
Non, j'ai plus le temps là. Je vais partir. Voilà, je voulais te dire au revoir.
Tu veux qu'on appelle un médecin ?
Non, c'est bon. J'ai rien moi. C'est mes vaches. Pardon hein, d'avoir raté.
Qu'est-ce que tu racontes là ? T'as raté quoi ?
On va certainement te dire que je suis un connard. Je voulais te le dire moi-même. C'est tout.
Ok, écoute là, c'est compliqué. Je suis pas tout, donc faut que tu me dises clairement ce que je peux t'embrasser. Pierre, t'as bu ou quoi là ? T'as vu dans quel état t'es ? Qu'est-ce qui te prend ?
Pierre se penche sur le comptoir pour essayer de l'embrasser. Elle l'écarte.
Pierre, c'est gênant, là. Donc, soit on appelle quelqu'un, soit tu dégages. Mais là, j'ai pas le temps.
Pierre regarde ses chaussures pleines de boue, puis remonte l'allée une dernière fois. Son regard est triste et déterminé. Dans le fond, des gens viennent parler à Emma pour savoir ce qui se passe. Sur le parking du bowling, Pierre rejoint le camion à bestiaux de Fabrice, garé sous les palmiers néons. À l'intérieur, on entend les vaches meugler. Dans le cabinet vétérinaire, Pascal et Régis sont sur leurs ordinateurs. Pascal raccroche son téléphone, elle envoie un fax. prend ceux qui sont déjà arrivés, les pose devant Régis qui remplit à la main des documents à case, des papiers administratifs. Le téléphone sonne, Pascal le regarde sonner. Régis décroche.
Allô ?
Oui.
Oui, Raymond.
Je comprends pas.
Quoi ? Miranda ?
Pierre conduit le camion à bestiaux de Fabrice sur l'autoroute. Il boit de l'eau à la bouteille, le veau est sur le siège passager. Il passe des pancartes bilingues flamand-français. Pierre gare le camion dans un chemin et coupe le contact. Il entre à pied dans la cour d'une ferme. Le décor est gris, vide, humide, à peine éclairé par la lueur froide de l'aube. Pierre toque à la porte, Jamy, le paysan belge vu dans la vidéo du début, est déjà levé. Il a beaucoup plus de barbe et de cheveux que quand on l'a vu.
Bonjour, je suis vraiment désolé de vous déranger.
J'espère pour toi que t'es pas représentant.
Non, non, pardon, je suis paysan. Je m'appelle Pierre Chavange. Enfin, on se connaît, en fait, je suis Pierre 52 du forum Vache Santé. Toi, c'est bien Jamy.
Bah oui, mais qu'est-ce que tu fous là?
Je voulais discuter avec toi, les indemnités, tu les as touchées alors?
Non, toujours pas. Bon bah, entre, on va boire un café. Dans la ferme de Raymond, Pascal et Régis sont devant les deux vaches de Raymond pleines de sang. Régis passe sa main gantée sur l'arête du dos d'une des vaches. Pascal sort son téléphone. Dans la maison de Jamy, Pierre est assis à une table. La maison ressemble à la sienne, mais ne semble pas habitée. Il y a aussi des vieilles assiettes accrochées au mur. Jamy apporte le café qui sert dans de grands mazagrans. Il prend une plaquette de médicaments au bout de la table et en avale un. Pierre regarde les boîtes d'antidépresseurs et d'anxiolytiques empilées sur un tas de vieux journaux. Jamy prend son mazagran et va se coller à la fenêtre. Il regarde par le carreau, un peu comme un chien de garde qui n'a pas le droit de sortir. En réalité, il ne regarde pas dehors. Il regarde une petite tache sur la vitre qu'il gratte. Pierre est un peu mal à l'aise. Ça fait bizarre de se voir en vrai.
C'est sûr.
Et il rentre à quelle heure, ta femme et tes enfants?
Ils rentrent plus. Ils sont partis.
Ah, pardon.
Non, tu peux rien.
Tu veux voir?
Voir.
Voir ici? Pierre et Jamy traversent la salle de traite de Jamy, plus moderne que celle de Pierre, vide, propre. Pierre regarde l'installation. Jamy le regarde, mais rien ne se passe dans son regard.
Le veto est venu, il a vu les petites taches là sur la vache.
Il montre du doigt sa propre nuque.
Et le lendemain, c'était fini.
Et c'était avec des combinaisons, hein, comme dans E.T. Des scaphandres, elles ont tout désinfecté. Tu l'as vu, E.T.
Jamy, il faut que je te montre un truc. En fait, je suis pas venu tout seul.
Dans la ferme de Raymond, Pascal et le responsable de la DDPP fument une cigarette. Raymond se tient un peu à l'écart, inquiet, les mains jointes, les doigts qui se tordent. Le responsable. Pour ces deux vaches, ça va aller vite, hein, moins de 5 bêtes, c'est réglé dans la journée. Il s'adresse à Raymond. Et vous aviez pas vu qu'elles allaient pas bien avant, monsieur?
Bah, si, j'avais vu.
Bah, je l'ai dit à son frère, mais il a pas voulu venir voir. Il en a marre de moi. Le responsable se tourne vers Pascal.
On parle bien de la même personne?
Les 20 tests au labo, c'est lui?
Pascal, c'est des suspicions. Les bovins ne saignent pas.
Le responsable se tourne vers Régis.
Et vous, vous dites rien?
Bah, j'attends les résultats du labo.
On va pas en rester là, je pense, docteur Chavange.
Vous allez tuer mes vaches?
Ah oui, oui, celle-ci, oui, c'est sûr, ouais. Enfin, sauf si elle meurt avant.
Dans la ferme de Pierre, Pascal et Régis, et le responsable, sont devant la ferme, vide. C'est la première fois qu'on entend autant le silence. Le responsable.
Vous avez un gros sens de l'humour dans la famille.
Pascal ne dit rien. Dans la ferme de Jamy, Pierre a garé le camion dans la cour. Jamy regarde les vaches de Pierre à travers les barreaux. Pierre s'avance avec ses classeurs remplis de documents administratifs. Jamy,
c'est pas ce que je crois.
Si, si, c'est des super vaches, regarde, il y a tout. Elles font 1000 de moyenne, elles ont un super caractère. Moi j'ai tué celles qui étaient malades, j'ai eu le temps avant que le veto arrive.
Bah, t'es sûr qu'elles sont pas malades?
Sûr, c'est les meilleures vaches du département. Je suis premier du classement laitier, elles sont au top.
Tu sais ce que c'est mon surnom chez moi?
Jamy marche droit devant lui vers sa maison.
Viens avec moi.
Pierre le suit. Jamy emmène Pierre dans ce qui ressemble à un débarras très sombre. La pièce est un capharnaüm, elle est uniquement éclairée par la lumière d'un écran d'ordinateur. Les fenêtres sont calfeutrées. Tout est crasseux, la vaisselle sale, les pots de yaourt vides et les miettes de pain s'amoncellent sur une table au milieu de la pièce. Jamy met en route une caméra sur pied. Pierre demande « Qu'est-ce que tu fais ? On va faire une vidéo ?» Jamy appuie sur un petit interrupteur qui allume des projecteurs semi-professionnels qui éblouissent Pierre.
« Une vidéo ?»«
Bah oui, une vidéo. J'ai une chaîne sur YouTube. Hein. YouTube, j'ai mis le lien sur le forum. Hein. Il y a plus de gens, c'est pour ça. Depuis qu'il n'y a plus de vaches, qu'il n'y a plus de femmes, qu'il n'y a plus de gosses, là, je me suis équipé, ça marche bien. Je fais 30 000 vues minimum à chaque fois. »
Mais tu veux faire une vidéo, pourquoi ?
Mais pour leur montrer qu'on les nique, hein. On va leur montrer qu'on rendra pas les bêtes. Avec ça, on va faire 1 million, c'est sûr. Ça risque même de passer aux infos. Ils vont nous entendre, hein, ces cons-là.
Pierre remarque la présence d'un fusil posé à côté de la caméra.
Non, mais Jamy, moi je veux pas ça. Je veux pas qu'on sache où elles sont.
Bah oui, on va les planquer.
Ouais, mais pour que tu t'en occupes, le temps qu'ils trouvent un vaccin, je te les prête. Après, je les reprends.
Un vaccin ?
Parce que tu crois qu'ils cherchent un vaccin ? Ils veulent qu'on crève, hein ? L'épidémie, ça les arrange, ça va plus vite. Allez, assieds-toi.
Non, mais ils vont nous retrouver tout de suite.
Bah, elles vont pas mourir pour rien. Hein, c'est moi qui te le dis, tu vas voir le bordel, mon gars.
Jamy paramètre son ordinateur. C'est le ciel qui t'envoie.
Pierre se lève et quitte la pièce. Jamy, concentré sur son projo, ne remarque rien.
Pierre roule sur l'autoroute, le regard triste. Il regarde Bignou sur la banquette passager. De retour chez lui, il se gare dans la cour, ouvre la porte du camion. À l'intérieur, c'est un carnage. Une vache morte gît au sol. Toutes les vaches sont pleines de boue. Elles n'ont pas été traites depuis trop longtemps. Du lait coule tout seul de leurs pieds et se mélange aux bouses. Pierre marche vers la salle de traite. Sur la porte du tank, un mot de la laiterie. Pas de collecte. Dans la salle du tank, Pierre ouvre les vannes de son énorme tank à lait. Le lait part directement aux égouts. Pierre regarde les milliers de litres qui disparaissent dans le trou. Pierre gare le camion de Fabrice devant la ferme. En off, on entend les messages laissés sur son répondeur.
Je t'appelais juste pour te dire qu'on t'a acheté des tisanes à base de roseau sauvage. C'est pour les cheveux. Il paraît que c'est anti-stress. Bon, je suis pas sûr que ça marche, mais nous, ça nous a fait rire. Allez, appelle-nous, on espère que ça va. Bisous.
Le visage de Pierre est éclairé par des flammes.
Ouais, mon vieux, c'est JD, là. Bah, vas-y, passe à la maison, viens parler.
Message d'un paysan.
Ouais, allô ? Allô ? T'es pas là, enculé ? C'est Philippe du Gaec de ce moutier, là. Tu sais, le parc derrière le Simonin. Je te préviens que si mes vaches, elles tombent malades, je vais foutre le feu à ta ferme, enculé.
Pierre est à une vingtaine de mètres du camion de Fabrice qui est en plein embrasement. Message de Fabrice.
Ouais, salut, Pierrot. Bon, je suis désolé pour tout ça, là. C'est vraiment une belle saloperie, les enfoirés, là. Ils nous feront tous crever, hein. Bon voilà, ça me gêne un peu de te demander ça, mais il paraît que t'as pas prévu de remonter la ferme après l'abattage, donc du coup, bah, moi ça m'intéresse.
Pierre regarde le camion, mais s'éloigne de chez Fabrice.
Pierre, réponds-moi. C'est maman, les gens nous appellent, ils te cherchent. Qu'est-ce qui se passe à la ferme ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si on s'arrête pas, on est là après-demain. Alors on va pas s'arrêter, rappelle-moi et dis-moi où t'es.
Pierre disparaît dans la nuit.
Nouveau message de sa mère. Mais réponds ! On nous a dit, on va appeler le banquier, on va vendre le pavillon.
Noir. Le réveil, 6h45, la main de Pierre qui l'arrête. Pierre se relève, s'habille. Par la fenêtre, on voit son parc avec son troupeau de vaches près du portail. Devant, deux hommes déroulent de la rue Balise, d'autres installent un pédiluve pour voiture. Le responsable de la DDPP parle avec le chef gendarme. Pascal est dans sa voiture à une dizaine de mètres du parc. Elle regarde la scène de loin. Elle prend un cachet. Elle ferme les yeux. Plus que 5 heures. Elle ouvre la porte de sa voiture et rejoint les autres. Pierre s'avance vers son parc, ses classeurs dans les mains. Les responsables de la DDPP et les gendarmes le regardent arriver. Il met les classeurs dans les bras du responsable. Pascal se rapproche. Pierre s'avance vers le portail. Les responsables, vous faites quoi ?
Je voudrais les traire, s'il vous plaît.
Vous allez rien faire du tout. Vous êtes là, on vous lâche plus, monsieur Chavange. Voyez avec les gendarmes pour les procédures qui vont suivre.
Je sais tout ça, mais je voudrais les traire.
Monsieur Chavange, rendez pas ça plus compliqué que ça n'est déjà.
Pascal, qu'est-ce qui se passe ?
Rien, votre frère veut traire maintenant.
Vous n'avez pas le droit de les déplacer de la zone d'exploitation.
La salle de traite en fait partie.
Ah ouais? Bah, je sais pas, moi.
Le responsable. Nous installons le périmètre, elles sont déjà parquées. Personne ne sait quoi faire, Pascal intervient. De toute façon, on n'est pas prêt, il n'y a qu'à le laisser les traire. Puis, comme ça, elles seront plus calmes.
Le responsable et les gendarmes se regardent. Le responsable acquiesce.
Pierre ouvre la porte des vaches qui traversent docilement la route, calme. Le chef gendarme se retourne vers son subordonné.
Va dire à Serge qu'il aille le surveiller l'autre, là, qu'il aille pas se pendre dans sa traite, là.
Pascal a entendu. Ça va?
Je vous dérange pas?
Pierre traite ses vaches calmement. Cette fois-ci, il prend son temps et les caresse toutes. Ses gestes sont à nouveau doux, lents. Dans l'air d'attente, les vaches disparaissent au fur et à mesure. 20, 14, 5. Pierre regarde dans l'air d'attente, c'est vide. Il débranche les trois dernières vaches présentes dans la salle, ouvre la barrière et les lâche. Dans la salle du tank, il appuie sur le bouton arrêt, un énorme bouton rouge. Le système émet un son sec. Silence. Plus de bruit de cœur mécanique. Plus rien. Pierre traverse ses vaches jusqu'au parc où attend l'armada agrandie. Gendarmes, vétérinaires, responsables sanitaires et deux énormes camions d'écarissage avec une grosse pince. Pascal est là, devant tout le monde. Elle a les yeux rouges. Pierre ferme la porte. La rubaliste dessine un enclos aux vaches. Les vaches paissent, libres. Pierre les contemple. On n'entend que le bruit du vent. Le silence règne comme si on était à une cérémonie. Pascal fait quelques pas et se met à côté de son frère. Il ne se touche pas, ne se parle pas, ne se regarde pas. Pierre demande « Il y en avait combien ?»«
Une. »
Pierre et Pascal se regardent. Pierre pince ses lèvres pour dire « Ok, allez-y. » Pascal regarde sa cinquantaine de seringues prêtes. Elle lève les yeux vers son frère qui détourne le regard. Elle pique une vache. Une vache s'écroule au sol, elle meugle un peu. Pascal lui fait une deuxième injection. Une autre vache tombe au sol. Le responsable de la DDPP fait des signes aux écarisseurs. Les gros corps lourds s'étalent de tout leur poids. Pierre fait demi-tour. Pascal.
Pierre !
Elle court vers son frère.
Pierre, il va falloir que tu nous amènes ton veau. On l'a sur les listes.
Dans la cour, Pascal arrive avec sa seringue, Pierre la regarde, il tend la main. Pascal regarde derrière elle, puis elle lui donne la seringue.
« Je te laisse. »
Il se regarde droit dans les yeux, les mâchoires serrées. Pierre avance vers sa maison, Pascal le regarde disparaître avant de faire demi-tour vers le parc. Dans le salon, Bignou est debout au milieu de la pièce, il comprend pas ce qui se passe. Pierre vient s'asseoir sur son fauteuil, il rapproche le veau de lui, il le caresse, le regarde, le veau meugle. Pourquoi je t'ai pas déclaré perdu dans la forêt, toi? Il pose sa tête contre lui. Pardon. Il prend le veau qui se débat un peu plus, puis se laisse faire. Il le serre, lui caresse la tête. Pierre sourit un peu. Au moins, je t'entendrai plus. Il décapuchonne la seringue et pique le veau. Le veau se débat un peu. Pierre le serre contre lui. Bignou s'endort petit à petit. Pierre le rassure en lui caressant le cou. Il le pique une nouvelle fois. Le veau ne respire plus. Pierre le serre plus fort. Dos au fauteuil, on voit Pierre penché sur le veau étendu. Pierre arrive en haut du parc, le cadavre du veau dans les bras. Toutes les vaches sont mortes. Les deux camions d'écarissage ramassent les corps qui restent au sol. Les vétérinaires rangent le matériel, remplissent des papiers. Pierre avance vers les camions. Il lâche le veau au milieu des autres carcasses. Lève la tête pour voir un cadavre soulevé par une grue et déposé dans la benne du camion. Il remonte le parc, baisse un peu les yeux. Il ne pleure pas. Le son change. Le bruit du vent s'amplifie jusqu'à couvrir tout l'espace sonore. Noir. Pierre et Pascal sont chacun accoudés sur un poteau. Face au parc vide, ils ne se regardent pas, ils fument chacun leur clope. La cour de la ferme, vide. La mère de Pierre la traverse, regarde à droite, à gauche.
« Et ton tracteur, tu l'as pas rangé? T'as rien rangé ?»
Le père est immobile dans son coin. On a vu avec le notaire, il dit que le pavillon, on peut le vendre vite et que ça couvrira.
Ça sert à rien, maman. Garde ta maison, c'est fini, la ferme.
En quelques mois, c'est fait, on va t'aider à retrouver des bonnes vaches. Et
maman, c'est fini, il n'y a plus de ferme. Je serai plus paysan, c'est fini.
La mère le fixe comme si elle comprenait enfin. Pardon, maman. Pardon d'avoir crié tout le temps. La mère quitte la cour à toute vitesse. Le père n'a pas bougé. Le réveil sonne. Pierre se lève. Il n'a plus de plaques, mais il a quelques cicatrices qui se dessinent. Des taches sur le dos comme un grand brûlé. Raymond et Pierre sont attablés devant chez Raymond. Un verre de blanc devant eux. Tu m'en veux ?
Ah bah oui, tiens. Mais bon, c'est fait, hein. On va pas en parler toute la vie non plus.
Sur un chemin, Pierre sort un sandwich et une bière d'une petite glacière qu'il a dans sa voiture. Il mange, devant un parc à vaches. Les curieuses sont devant lui, contre le fil barbelé. L'une d'elles meugle en le regardant. Pierre sourit et lui répond par un doigt d'honneur. Il finit son sandwich paisible. Il démarre sa voiture. Allez, salut, hein. Il démarre. Les vaches le suivent le long de la clôture. Il accélère, elles accélèrent. Il ralentit, les vaches aussi. Pierre s'arrête, elles s'arrêtent. Pierre met les gaz. Les vaches sont à la traîne. Il roule vite sur le gravier. Les vaches disparaissent de sa vitre. Pierre fonce tout droit. C'est la nuit. Nous sommes dans le rêve de Pierre. Il regarde ses vaches enveloppées d'une flamme légère comme des becs benzène. Il les chasse de la main. Les vaches s'écartent un peu, puis s'arrêtent, leurs flammes bleues et jaunes toujours dansantes sur leur dos et leurs pattes. Pierre tape dans ses mains, continue de les chasser. Les vaches s'éloignent. Les flammes s'éteignent. Tout devient obscur autour de Pierre. Les vaches ont disparu.
C'était Bloody Milk, un scénario de Hubert Chariel et Claude Lepape. Grand prix du public du meilleur scénario au Festival Premier Plan d'Angers en janvier 2016. Lecture par Swann Harlow. Enregistré en public au Théâtre de l'Alliance Française le 13 avril 2016. Lumière, Isabelle Bureau. Équipe technique, Bernard Legac, Tanguy Le Corneau et Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Laure Egoroff. Remerciements aux équipes de l'Alliance française.